culturel de profonde déchristianisation, dans lequel agnosticisme et athéisme gagnent en proportion, une certaine soif spirituelle demeure, qui s'exprime d'une manière profondément humaine et naturelle dans la permanence et la nécessité des rites qui délimitent aussi des espaces sacrés. Le père Jean-Henri donnait l'exemple profane, on n'entre pas chez quelqu'un sans frapper, sonner ou dire bonjour. Ce rite de politesse délimite un espace de politesse, de mise à part, qui marque un sens particulier. On comprend ici que c'est chez soi et non chez l'autre. Dans cette société toujours imprégnée de rituels, les chrétiens sont invités à exprimer sans complexe, ce qui fait sens pour eux dans leur manière de vivre et de prier. C'est le cœur du témoignage et de l'évangélisation. La dimension transcendante de l'homme qui se lie dans les rites donne sens à la vie sociale et à la structure. Elle crée ainsi la culture qui permet aux hommes de vivre ensemble. Cette dimension sociétale nous a été expliquée par l'anthropologie biblique avec le père Antoine de Bec lors de notre seconde séance. L'homme est un être de relation, il est créé à l'image de Dieu Trinité, qui est une communion de personnes. Il est un être vivant capable de donner la vie et qui se trouve lui-même dans le don sincère de lui-même. C'était l'expression du Concile Vatican II. En l'homme sont unies les natures matérielles et spirituelles par le corps qui exprime et permet la relation. Comme le corps, partie visible de la personne qui dit beaucoup plus que son apparence et révèle sa dimension spirituelle, nous allons mieux comprendre avec le père Jean-François Audrin, j'imagine, comment les sacrements vont exprimer les réalités invisibles avec des signes visibles et comment ainsi nous sommes invités à entrer dans le mystère du Christ et de son épouse l'Église. Voilà, je vous laisse la parole à vous, j'ai pendant 2 heures.
Oh, ça va être dur, hein. Je vous admire, le courage, bravo. C'est de rendre ça intéressant, mais le sujet est passionnant de toute manière. Et dès qu'on parle du bon Dieu, normalement, ça devrait être passionnant. Alors moi, je suis le père Jean-François Audrin, je suis curé à Lorient actuellement. Ça fait 32 ans que je suis prêtre. À l'âge de 20 ans, je suis parti pour un an à Toulon et je suis resté 24 ans dans le Var, à vrai dire. Donc, j'ai fait ma formation initiale à... Toulon, au séminaire de la Castille, et puis ensuite je suis parti faire une maîtrise de théologie à l'Institut catholique de Toulouse, une année de spiritualité à l'Institut Notre-Dame de Vie, pour ceux qui connaissent, et puis un doctorat en théologie spirituelle à l'Université pontificale de la Sainte-Croix à Rome. J'étais curé au milieu de jeunes, beaucoup, au milieu de diocésains, un tas de trucs, notamment liés aux jeunes, aux vocations, et surtout aussi formateur dans les séminaires à Toulon, un peu ici aussi, et puis à Rome. Voilà, donc, mais depuis que j'ai le doctorat, j'ai très peu l'occasion d'enseigner. Chercher l'erreur. J'ai une certaine joie à venir vous parler, même si vous faites quelques kilomètres. Voilà. Si je tousse, vous ne traquez pas, ce n'est pas le Covid. C'est sujet à des toux chroniques depuis 30 ans, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas lié au Covid. Voilà. Alors, on va essayer d'embrayer. Par une petite introduction, je vais vous faire un rappel, je pense, avec ce que vous a dit le père Antoine de Rouec, qui est mon confrère et mon frère de communauté, puisqu'on est ensemble dans l'oratoire en formation, l'oratoire Saint-Philippe en formation à Lorient. Donc, il m'a dit un peu ce qu'il a fait, mais je pense que pour bien comprendre les sacrements, c'est bien que je vous mette un peu la toile de fond de l'ensemble à travers un petit schéma que vous allez vite oublier après, sinon. Emmanuel et puis enfin ils vont me brûler à la fin s'ils me dénoncent à l'inquisition qui n'existe plus, mais enfin on ne sait jamais. Mais enfin le petit schéma peut-être vous aidera à bien synthétiser ensemble l'ensemble du mystère de la création, de la rédemption et comment s'incluent les sacrements. Alors n'hésitez pas à intervenir, j'ai une petite tendance à parler un peu vite des fois, donc vous me calmez si vous voyez que ça s'emballe. Et puis si vous avez des questions, je pense que vous les n'hésitez pas que ce soit interactif. Ok, donc le plan du sujet qu'on m'a demandé de traiter, il est assez simple. Les sacrements dans la vie, etc. première partie, et ensuite on reprendra, selon le temps qu'on a, les sept sacrements, en disant un petit aspect de chacun. J'ai mis en exergue cette petite parole. Quasiment toutes les citations sont tirées du catéchisme de l'Église catholique, puisque c'est la somme que tout le monde a à la maison, et la somme de référence accessible à tout le monde. Enfin, accessible, je sais que bien, j'en ai un peu de mal quand même. Mais comme ça, vous aurez les numéros du catéchisme qui est largement cité dans ce petit exposé. Alors, les sacrements sont les chefs-d'œuvre de Dieu, j'aime bien ça, parce que c'est vraiment une invention du bon Dieu. Le bon Dieu qui veut vraiment rencontrer l'homme, venir au-devant de l'homme, c'est ce qu'on dira tout à l'heure. Adam, où es-tu? Dieu cherche l'homme. Il a le sein de chercher, de trouver l'homme et de s'unir l'homme, de vivre cette communion avec l'humanité. Et donc pour ça, il va inventer des trucs. Et parmi ces trucs, parmi ces chefs-d'œuvre, c'est, dit le catéchisme, les sacrements de l'Église. Et c'est comme ça d'ailleurs, une petite parenthèse, que je comprends cette fameuse phrase du curé d'Ars par rapport au sacerdoce qui dit... Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. On l'entend souvent, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Vous avez déjà entendu ça, non? Oui. Bon. Comme laïc, vous pouvez dire, oh, les mecs, on se calme quand même. Alors, souvent on l'entend, voilà, il y a un amour de privilégié de Jésus pour ses prêtres. Bon, on peut comprendre, un peu comme il l'a eu pour Saint Jean. Ok. Sauf que la figure sacerdotale dans l'évangile, ce n'est pas d'abord Saint Jean, ce n'est pas pour Saint Pierre. Et puis, je pense qu'il faut plutôt le comprendre, un peu comme pour les sacrements, c'est que Jésus, cherchant à communier à toute l'humanité, pour laquelle il donne sa vie, il va inventer le fruit de son amour pour que son amour s'épanche, il invente les prêtres, quoi. Ça va être un moyen au service de cet amour. Donc là, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus, dans le sens que l'amour, l'objet de l'amour, c'est le peuple tout entier, et le sacerdoce va être un des moyens privilégiés pour dispenser l'amour de Jésus. C'est une petite nuance qui me semble intéressante, en faisant le lien avec les sacrements. Donc pour la première partie, vous avez 6 points. Création et rédemption, qui est vraiment une vision générale, avec mon petit dessin, que vous allez prendre peur, vous allez voir. L'Église, sacrement du Christ, sacrement de la foi, sacrement du salut, grâce créée, grâce incréée, dimension organique des sacrements. Ça va? On est parti? Et après, il y a une deuxième partie, c'est les sept sacrements. Ça va? Alors, j'espère que vous allez voir mes petits dessins. Vous savez que dès qu'on ouvre la Bible, le premier truc qui apparaît, c'est qu'il y a une espèce d'explosion d'amour dans la Genèse, où Dieu crée, c'est un feu d'artifice, c'est du champagne, ça pète dans tous les sens, quoi. Je ne sais pas si c'est ça le Big Bang, mais le premier chapitre de la Genèse présente la création comme une explosion d'amour. Et effectivement, Dieu, qui est un Dieu amour, est toujours en mouvement pour se donner. Donc il ne peut que être en expansion. Et on voit que la création était en expansion. À un moment donné, il veut créer un être qui lui ressemble. Dieu créa l'humanité, homme et femme, il les créa. Vous connaissez ce passage, donc il est largement recommandé tout le temps. Donc on a ce Dieu qui est un Dieu trinitaire. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu la Trinité en dessin, mais je vais vous la faire. Donc c'est quand même privilégié, ce n'est pas tous les jours. D'accord, donc Dieu, il est là, c'est le Père. Bon, je m'appuie quand même sur Saint-Augustin pour vous faire ça. Il dit, le Père, il est depuis toute origine, il est Père. Il n'a pas commencé, et depuis toujours, il engendre. Engendré, ne pas créer de même nature que le Père, c'est le Fils. D'accord? Le Fils, il est là, il se reçoit de son Père. Mais comme Picou est fils de son Père, pour ceux qui ont lu le petit bouquin, Jésus, il est fils de son Père, il est comme papa. Donc si papa, il est Père, il est don de lui-même dans le Fils, il est comme papa, il est don de lui-même dans le Père. Et saint Augustin, il va dire, le Père aime le Fils, il est présent dans le Fils. Le Fils aime le Père, il est présent dans le Père. Et cette présence de l'un dans l'autre forme l'esprit d'amour, dont le baiser, le souffle entre le Père et le Fils, qui est le Saint-Esprit. Tout ça, c'est un petit rappel. Donc, un seul Dieu en trois personnes. OK ? Et donc, il y a un mouvement d'amour entre les trois, toujours en mouvement pour se donner. On peut dire que la création, ce mouvement qui se crée, le bien, c'est l'amour, c'est le bien diffusif de soi, dira saint Thomas d'Aquin. Le bien, l'amour, c'est le bien diffusif de soi. Dès qu'on aime, on ne peut pas s'arrêter de faire le bien et de se donner. Donc voilà, il y a une circonvolution, ça part dans tous les sens, et la création, c'est, voilà, c'est une explosion de ce mouvement d'amour. Et à un moment donné, il dit, faisons un être qui nous ressemble. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'homme. L'homme, ok, à son image, à sa ressemblance. Donc il y a tout un jeu de singulier et de pluriel, je passe là-dessus, c'est pas le moment de faire l'exégèse de tout ça. L'homme et la femme, forcément, et la fécondité, on va dire l'enfant, avec donc la famille, hein, le foyer, on va plutôt dire, ben, c'est moins le couple que le foyer va devenir, j'aime beaucoup ce vieux mot de la. On emploie un peu moins, mais ça dit bien le rayonnement de l'amour, quoi. Le foyer va devenir l'image, la plus belle image et ressemblance de Dieu sur la terre. On est d'accord avec ça, hein? Quand Dieu crée, il crée un être, mais qui peut vraiment être image et communion et ressemblance de Dieu en tant qu'il est communion. Parce que si Dieu est communion, forcément, l'être qui lui ressemble, l'homme avec un grand H, ne peut être que vraiment homme avec un grand H, il est homme et femme et fécondité de l'amour. Ça va jusqu'ici? Bon, c'est des banalités, hein, mais c'est important, je le redire. La plus belle image, plus belle icône de Dieu sur la terre, elle est là. Avec ce lien qui est là. Ok. Bon, tout ça, c'est bien joli, mais on voit bien que l'histoire de nos familles, c'est un peu moins simple que la jolie icône. Et donc, vous connaissez la suite. Donc, il y a un méchant petit serpent qui arrive et qui va briser ce lien de confiance et de communion entre le haut et le bas. Donc au début, il y a image et ressemblance, ok, mais en brisant la communion, en se détournant de Dieu à un moment donné, avec toute l'histoire que vous connaissez, hein, peu passe, eh bien, il se passe ce qui se passe lorsque vous avez une toile d'araignée, une araignée qui descend, qui tisse sa toile, vous coupez le fil vertical, paf, la toile, elle s'affaisse, et l'araignée part faire sa toile ailleurs parce qu'elle est morte. Là, c'est un peu pareil, c'est que une fois qu'on a brisé ce lien vertical avec Dieu, ce lien de communion, tout s'affaisse. La relation de l'homme avec la femme, hein, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte, et après, pof, ils sont obligés de se cacher l'un de l'autre. Ils ont peur de Dieu, qu'il devient l'ennemi numéro un. La création, ça devient difficile, il faut travailler durement la terre, alors que tout était dans l'harmonie. Bon, ok. Donc là, il y a une désharmonie, une cassure qui vient à partir donc, de cette brisure de lien avec Dieu. Ok ? Donc, à partir de là, on a un peu l'homme qui marche sur la tête, si on veut. Avant, il y a une triple domination, une domination de la raison sur les passions, de l'âme sur le corps, et de l'homme sur la nature. C'est le cardinal Journal qui dit ça. Triple domination. De la raison sur l'âme, sur les passions. Deuxième domination, de l'âme sur le corps. Troisième domination, de l'homme sur la nature. Après cette brisure, ben l'homme marche sur la tête. Le petit bonhomme, il se retrouve comme ça. Et c'est l'inverse. Domination de la nature sur l'homme, du corps sur l'âme. Hein, et le corps devient la prison de l'âme, avec les philosophies que vous connaissez, hein, ou objet de plaisir, etc. Et puis, la domination des passions sur la raison, quoi. On en perd la boule, quoi. Bon. Sauf que le bon Dieu, lui, il a son plan d'amour, toujours. Lui, il ne peut pas bouger. Nous, on bouge sans arrêt. Mais lui, il reste le Dieu d'amour. Donc, rappelez-vous cette belle parole. Hein, une fois qu'il vient au jardin rencontrer l'homme, il appelle Adam. Adam, où es-tu? Et vous pouvez, à travers cette phrase, comprendre toute la Bible, toute l'histoire qu'on appelle l'Alliance. L'Alliance, c'est Dieu qui, dans l'histoire, redit cette parole, Adam, donc l'homme, où es-tu? Dieu qui cherche l'homme. Et Dieu n'aura de cesse que de chercher l'homme, de tendre la main à l'homme. Et un peu comme on essaye d'apprivoiser un petit oiseau en lui mettant du pain de très loin, et puis on réduit la distance entre l'oiseau et notre main, en mettant en réduisant la distance du pain que l'on met au bord du chemin, en espérant qu'un jour le petit oiseau vienne nous picorer dans la main les miettes de pain, bon Dieu, il fait comme ça à travers tout l'Ancien Testament. Et il envoie ses prophètes pour donner sa parole, les éclairer, les encourager, etc., les reprendre, Il y a des fois, ils sont fidèles, ils sont infidèles, etc. Bon. Donc, ils créent une alliance, mais qui est bousculée sans arrêt. Quoi. Ça ne marche pas vraiment. Parce que c'est le meilleur de ses serviteurs, hein, prenez David ou Moïse, sont aussi de grands pécheurs. Donc, c'est un peu le bazar. Et pour finir, eh bien, il va envoyer son propre fils. Ok ? Là, je ne vous perds pas, là, c'est bon ? Bah, si. Donc, il envoie son propre fils, donc c'est l'un de la Trinité, le fils, qui, par Marie, est fait homme. Hein, d'accord ? Donc, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Vous êtes d'accord ? Qui, s'incarnant, prenant chair, que nous venons de célébrer à Noël, va être, ce que dira saint Paul, l'image du Père invisible. Dieu, nul ne le voit. Hein, c'était la première lecture de hier, je ne peux pas mentir. Personne n'a vu Dieu. Mais Jésus rend le Père visible. Qui me voit, voit le Père. Et donc l'homme qui est perdu, là, parce qu'il a perdu là, la route, il a perdu la route, à travers cette cassure, il a perdu, non pas l'image, mais la ressemblance. Et dans le péché, il garde, tout homme est image de Dieu. Mais on a perdu la ressemblance. C'est un peu comme un miroir où il y a trop de bruit, où le miroir a cassé, vous regardez dedans, le miroir, il est. Ça donne une image pas très belle de votre beau visage, non ? Là, c'est l'homme d'après le péché. Alors, on a besoin de regarder Jésus pour voir la vraie image. Qui me voit, voit le Père. Regardez-moi pour trouver, pour savoir à quoi ressemble Dieu. Donc, Jésus, par sa parole, par son enseignement, va être un guide, par ses gestes, il va nous permettre de retrouver la route de la ressemblance. Et la route pour faire comme lui, parce qu'à un moment donné, lui, ciao, il remonte vers le Père, d'accord ? On est d'accord, hein ? Jésus repart vers son Père. Qu'est-ce que je peux utiliser comme couleur ? Ben, le bleu. Donc la mort, la résurrection, etc. Mais il dit avant de partir, je vous laisse pas orphelin. Hein ? Le bon Dieu n'est pas celui qui nous dit ce qu'il faut faire, qui nous montre ce qu'il faut faire, qui se contenterait de ça. Non seulement il a fait le chemin pour nous montrer comment il fallait agir, non seulement il a parlé, mais il va nous donner les moyens de faire cet itinéraire. Et c'est là qu'on va retrouver nos sacrements, hein, c'est les moyens pour faire l'itinéraire. J'aime beaucoup cette parole de saint Augustin qui dit, Seigneur, c'est une prière, Seigneur, donne-moi ce que tu commandes et commande-moi ce que tu veux. Seigneur, donne-moi ce que tu commandes et commande-moi ce que tu veux. Magnifique ça, non ? C'est ça que fait Dieu. Il ne donne pas des ordres de moi, allez mec, tu regardes, à vous de jouer maintenant. Non, non. Donc, il envoie l'Esprit Saint, pour les petits bonhommes, nous on est là. Hein. À vrai dire, on marche la tête à l'envers, je vous rappelle. On est là, donc on regarde Jésus, et paf, on reçoit le don de l'Esprit Saint, l'amour du Père et du Fils, qui vient en nous, je vous expliquerai comment on appelle ça, tac. Tac, on peut même mettre des petits cœurs, d'accord ? Des petits cœurs, hein, c'est l'amour. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parole magnifique, chapitre 6, je crois, non, c'est pas. Je sais plus, ça va être au Romain, je crois. Mais l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, l'Esprit Saint est répandu dans nos cœurs. Papa, vous y voyez encore quelque chose là ? Et tous ceux qui ont reçu ce Saint-Esprit, comment on les appelle ?
Les baptisés.
Les baptisés, les chrétiens, et ça forme l'Église. D'accord ? Donc, l'Église, ce n'est pas le curé, ce n'est pas les laïcs, ce n'est pas l'organisation interne de ce rassemblement de tous hommes. L'Église, c'est ceux qui, dans la grâce du baptême, ont reçu ce quelque chose au-dedans d'eux, que je citerai tout à l'heure, qui va leur permettre non seulement de regarder Jésus, de l'écouter, mais d'avoir une force intérieure pour faire le chemin qu'il nous a indiqué. Ça va ? Et tous nos sacrements sont là. Ça veut dire que Jésus, il est le sacrement du Père pour le Fils, même si l'expression peut être ambiguë, il est sacrement du Père en sens que le Père, on ne le voit pas, mais on voit Jésus. Et par Jésus, on est conduit à l'invisible, au Père invisible. Et l'Église va devenir, c'est ce qu'on va voir maintenant, le sacrement du Christ, le signe visible du Christ invisible, où l'action de Jésus va pouvoir se poursuivre en elle et par elle. Réaction ? Rapide, vite dit, mais c'est pour retracer donc, cette histoire d'alliance, pour recréer le fil coupé, essayer de retrouver la ressemblance, ce qu'on appelle la divinisation, la filiation divine, ce qu'on va fêter dimanche au baptême du Seigneur, c'est la filiation divine, pour que vous et moi, on ne soit pas des enfants difformes, mais qu'on ressemble à notre Père du ciel, grâce à Jésus et à la puissance de l'Esprit-Saint. C'est tout ça. Et c'est un beau programme, non? Vous voulez réagir ou... Bon. C'est inutile de vous montrer ça, mais... Ça me fait plaisir. Je le fais. Voilà. Non. Ok. Donc... Donc Jésus, hein, vous connaissez cette parole, il a versé son sang, le sang de l'alliance, il est venu pour ça, pour recréer l'alliance, nouvelle et parole de l'Eucharistie. Okay. Alors, l'Église va être l'Église sacrement du Christ. Il y a un petit texte du Concile Vatican II qu'on peut apprendre par cœur, c'est un des plus cités d'ailleurs dans l'histoire. Depuis 50 ans, depuis le début du Concile, un des textes avec la parole que vous avez citée, l'homme ne se trouve que dans le don désintéressé de lui-même, mais ce texte-là, il est fondamental, je n'ai pas mis en entier, c'est le début de Lumen Gentium, qui est la constitution fondamentale du Concile Vatican II, presque tous les autres vont découler de celle-là. D'accord ? Donc vous ouvrez votre Concile Vatican II et vous tombez, LG1, sur ça, le Christ est la lumière des peuples. Donc Lumen Gentium, ce texte sur l'Église, ne renvoie pas d'abord à l'Église. Lumen Gentium, ce n'est pas l'Église. Lumen Gentium, c'est... Parce qu'il y a des gens qui pensent que la lumière du monde, c'est l'Église. Non. La lumière, c'est Jésus. Jésus est la lumière du monde, d'accord ? Et le texte dit bien ça. Le Christ est la lumière des peuples. Et vous savez bien que tous les textes conciliaires prennent comme titre les premiers mots du texte, qui donnent la tonalité. Donc c'est bien le Christ qui est la lumière du monde, pas l'Église. Mais par contre, l'Église, entre les deux, il y a les pères conciliaires, par l'annonce de l'Évangile, etc., souhaitent répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. Oh ! Voilà ce que doit être l'Église, quoi. L'Église, alors, ça fait mal qu'on entend ça avec l'actualité, hein, je suis d'accord, hein. Mais l'Église, elle doit refléter la lumière qu'est le Christ. Génial. Et la suite du texte, l'Église étant dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen intime de l'union intime avec Dieu, de l'unité de tout le genre humain. Donc on a les deux finalités, hein, de ce qu'est le sacrement. Donc à la fois la définition d'un sacrement, ben, définition très courte, incomplète, mais fondamentale, un sacrement, c'est un signe et un moyen efficace qu'on peut rajouter. Un sacrement, c'est un signe, on voit quelque chose, et ce n'est pas seulement un signe, c'est aussi le moyen pour. Le signe n'est pas forcément efficace. Le feu rouge me dit quelque chose, mais il n'y a pas d'efficacité, sauf si vous le grillez et vous prenez notre voiture, bon, c'est sûr que vous verrez que le signe sert à quelque chose, mais en lui-même, il n'a pas d'efficacité. Alors qu'il y a une force, une puissance, une dynamique dans le sacrement, un signe et moyen pour s'unir à Dieu et pour créer la communion entre nous. Hein? Donc, s'unir à Dieu et recréer la communion entre nous. Non seulement des familles humaines, mais de la famille humaine. C'est ça que l'Église s'adresse au monde entier. L'Église est pour le monde, elle n'est pas pour nous. D'ailleurs, on passe trop notre temps à regarder l'Église. J'espère que le synode, soit le synode de l'État qui est très bien, mais j'espère que ce ne sera pas une occasion de plus pour nous se regarder le nombril. Hein, à un moment donné, on est là pour le monde. La finalité de l'Église n'est pas en elle-même, elle est pour le monde, pour que l'humanité rentre dans cette danse de la communion des uns avec les autres et avec le Christ. Ça va ? Alors, vous le savez sans doute, mais le mot Église peut s'entendre soit à l'actif, soit au passif, en tant qu'elle est convoquée, celle qui rassemble d'un côté la voix, en tant qu'elle est convoquée, et de l'autre côté, en tant que c'est elle qui convoque. L'Église, convocation divine, et communauté des convoqués, à la fois constituée comme sacrement uni au Christ, corps du Christ, à l'Église, donc c'est celle qui est convoquée et unie par le Christ à lui, pour former son corps mystique du Christ. Ok, ça va, que saint Paul développe sans arrêt, c'est une des plus belles images, pas la seule. Il ne faut jamais en rester à une seule image dans l'Église. Le Concile d'ailleurs, Vatican II, prend bien soin de développer toutes les images. Et parmi celles qui sont les plus fortes, quand c'est développé par la théologie, c'est celle qui est un peu complexe, mais de corps du Christ. Et c'est le Christ qui s'unit, l'Église. Donc elle est dépendante du Christ qui la sanctifie. Et en même temps, elle devient celle qui rassemble. Donc à la fois actif et à la fois passif. Et on va retrouver ça dans les sacrements. Les sacrements, donc, citation du catéchisme, chaque fois c'est marqué CEC 118. Je pense que le numéro n'est pas bon. Parce qu'on est plutôt dans les 1000, alors 1118, je pense. une erreur de numéro. Donc, les sacrements sont de l'Église, en ce double sens qu'ils sont par elle et pour elle. Ils sont par l'Église, car celle-ci est le sacrement de l'action du Christ, opérant en elle grâce à la mission de l'Esprit Saint. Et ils sont pour l'Église, ils sont ces sacrements qui font l'Église, puisqu'ils manifestent et communiquent aux hommes, surtout dans l'Eucharistie, le mystère de la communion du Dieu amour, en trois personnes. Et déjà, on met un peu à part le sacrement de l'Eucharistie, vous voyez ? Tous les sacrements travaillent à cette réconciliation, et c'est sûr que, et à cette communion, mais l'Eucharistie, la communion, comme on l'appelle, va jouer un rôle très important là-dedans. On dira un mot de sacrement mariage, qui est aussi l'autre sacrement de l'amour. Ça va, ça vous comprenez ou... Donc, l'Église dispense. L'Église dispense les sacrements du Christ, elle ne se dispense pas elle-même. De même que le Père est rendu visible dans le Fils, dans le Christ, qui est en quelque sorte, beaucoup de bémol, le sacrement du Père, l'Église va devenir le sacrement du Christ, uni au Christ, et elle va donner, par elle, va passer la vie de Jésus. Ok ? Les mystères de la vie du Christ sont les fondements de ce que désormais, par les ministres de son Église, le Christ dispense dans les sacrements, car, c'est une phrase très célèbre d'un auteur spirituel, ce qui était visible en notre Sauveur est passé par ce mystère, par ces sacrements. C'est sûr que Jésus, là, il a fait des choses. Il a guéri, il a enseigné, il a pardonné, il a ressuscité, ok ? Il a pris soin de l'homme, il a été le curé. Le curé, c'est celui qui prend soin. Donc, on fait le job de Jésus, quoi. Parce qu'il a institué 12 pour faire ce job-là. Je dirais pas des laïcs là-dedans, parce que c'est extrêmement précieux. Ces gestes que Jésus a posés, on va les retrouver quasiment dans les sacrements. Enfin, pas quasiment, on va les retrouver dans la vie de l'Église par chacun des sacrements qui poursuivent la parole et l'action de Jésus. Ça va ? Même si, vous doutez bien, parce que c'est des trucs qu'on nous resserre de temps en temps, la forme du sacrement, parfois, a pris du temps à se mettre en place. Mais dès les débuts de l'Église, on vit ce que Jésus a vécu. Et donc, les époux chrétiens se sont mariés dans le Christ, apôtres et successeurs des apôtres, on continue le job des apôtres, et même si le sacrement de l'ordre a évolué, etc., etc. Enfin, on retrouve tous les éléments parce que c'est le sacrement du Christ. Et l'Église ne fait autre chose que de donner, de refaire, de reposer les gestes que Jésus a fait. Quoi. Alors pour certains sacrements, c'est plus facile. Bon, sacrement de la confession. Un premier truc que Jésus ressuscité dit à ses apôtres le soir de Pâques, un souffle sur eux, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous retiendrez les péchés seront retenus, ceux à qui vous les maintiendrez seront maintenus. Bon, le truc est assez clair, quoi. Bon, même si la forme du sacrement va évoluer, l'Église va se chercher un peu là, dans un premier temps, mais bon, il y a des choses comme ça qui sont extrêmement claires, ou l'Eucharistie, hein. Faites cela en mémoire de moi, prenez, mangez, prenez, buvez, faites cela en mémoire de moi. Bon. Alors, oui, on s'ajoute ce petit truc-là. L'interflora des grâces divines, c'est un copain qui m'a dit ça un jour, j'ai trouvé ça mignon, pour parler des prêtres. Bon, le prêtre, c'est rien du tout dans cette affaire. Il est simplement le serviteur de l'Église qui diffuse ce que Dieu, comme je vous disais tout à l'heure, veut répandre pour tous. Et nous, on est l'interflora des grâces divines, quoi. Donc, le ministère ordonné ou sacerdoce ministériel, comme on nous appelle nous, est au service du sacerdoce baptismal, sacerdoce des fidèles, du vôtre. La finalité, c'est le sacerdoce des fidèles. Nous, le sacerdoce, il est second. Hein? Ce qui est premier, en ordre d'importance, même si hiérarchiquement, c'est ça le paradoxe, on est mis au-dessus hiérarchiquement dans l'organisation du corps, mais pour être au service de tout le corps. Alors, si on oublie ça, c'est sûr qu'on peut se prendre pour des seigneurs, mais théologiquement, c'est la vie de l'Église, l'enseignement de l'Église, il est très clair là-dessus, quoi. On n'est vraiment que des serviteurs. La finalité, c'est le sacerdoce baptismal, que tous, dans le Christ, vous soyez prêtres, prophètes et rois. C'est-à-dire que vous avez la mission d'enseignement, de sanctification et de gouvernement. Et donc les prêtres aussi, on est prêtres, prophètes et rois, on a une mission de gouvernement, on est pasteur, on a une mission d'enseignement et on a une mission de sanctification. Mais pas la même place que vous. Nous, on est mis à part pour que vous puissiez le faire pour le monde entier, quelque part. Hein? Vous connaissez le par lui, avec lui et en lui. Par lui, avec lui et en lui, ok. Donc, le par lui, avec lui et en lui, vous, on peut dire que vous êtes du côté du avec lui et en lui. Enfin, vous, les baptisés, les curés restent les baptisés, hein. Attention. C'est important de se le redire. Hein? On est d'abord des baptisés. D'accord. C'est bon pour l'oublier, mais c'est capital quand même. Et petite parenthèse, vous êtes alors j'ai fait une petite thèse de doctorat et sur une figure qui s'appelle Saint Philippe Néri. Bon. Et en cherchant à travers cette figure de Saint Philippe Néri, c'est quoi en interrogeant, c'est quoi être un saint prêtre. Et chez Saint Philippe Néri, c'est clair que la grâce baptismale, elle est fondamentale, elle est première. Quoi. Chez Philippe Néri, c'est d'abord un saint laïc, quoi. Un bon bonhomme, une bonne nature, un saint chrétien, et ça fait un saint prêtre. C'est tout bête. C'est les poupées russes. Quoi.
Interflora
des grâces.
Avec lui,
oui.
En lui.
Ah oui, par lui. Non, nous, on est plutôt du côté de la médiation, par lui, pour bien manifester ce qui est dit là. La mission du salut confiée par le Père à son Fils incarné est confiée aux apôtres et par eux à leurs successeurs, donc les évêques. D'accord. Ils reçoivent l'Esprit de Jésus pour agir en son nom et en sa personne. Ainsi, le ministre ordonné est le lien sacramentel qui relie l'action liturgique à ce qu'ont dit et fait les apôtres et par eux à ce qu'a dit et fait le Christ, sauf ses fondements et sacrements. Donc, on est inventé, nous, pour se rappeler que ça restera toujours les dons du Christ, que ce n'est pas chacun qui va prendre la grâce, on reçoit du Christ. On est le signe de la médiation universelle du Christ, que tout est reçu par le Christ, pour que chacun soit avec le Christ et dans le Christ. On est tous avec le Christ et dans le Christ, mais on a besoin de se rappeler que c'est par lui qui est le primat, la personne du Christ. Et moi-même qui suis prêtre, ben, je vais auprès d'un autre prêtre pour me confesser, pour recevoir le pardon. Je ne me donne pas le pardon. Je ne peux pas faire le pardon pour moi. D'accord ? On est dans le mode de médiation. Hein ? Ça va, ça ou... Je dis bien, la finalité, c'est le sacerdoce baptismal. Tout le peuple, un peuple sacerdotal. Qui fait que tout ce que vous faites, ce que dit Saint Paul, boire, manger, dormir, que tout soit pour la gloire de Dieu. Et pour que tout soit pour la gloire de Dieu, eh bien c'est... Il y en a quelques-uns qui sont mis à part pour vous donner ce dont vous avez besoin, pour manifester que ça vient bien du Christ, pour que vous créez d'autres Jésus pour le monde. Quoi. Moi, j'aime beaucoup le moment à la fin de la messe où je dis allez dans le pied du Christ. On ne vous dit pas bon, c'est fini, cassez-vous, la messe est terminée, vous pouvez vous occuper du rôti. On vous dit quoi? C'est un envoi en mission qui vous dit ben, ce qu'on a célébré, vous allez le vivre. Hein, vous avez quitté vos chaises à un moment donné pour venir communier. J'aime beaucoup ce moment où le prêtre sort du sanctuaire, l'espace sacré. Il sort, on doit sortir. J'aime pas. C'est mes petits trucs, hein, pardon. Après, vous pouvez faire des choses sur mon compte. Hein, chacun. J'aime pas que le prêtre, parfois, reste sur les marches du sanctuaire pour donner la communion. Parce que je pense qu'il faut qu'on sorte du sanctuaire pour porter la communion. Et il y a une rencontre du peuple de Dieu qui vient à la rencontre du Christ. Et le Christ qui. Bon, ça, c'est la symbolique de tous les. Toutes les démarches sacrées. Donc, l'essentiel se fait dans les espaces sacrés, puis le prêtre, à un moment donné, sort, et puis pour que le peuple de Dieu communie au corps du Christ, et pour que, à partir de cet espace privilégié et sacré, lorsque le chrétien retourne à sa place, ensuite il va partir dans le monde pour porter ça à tout le monde, quoi, pour que le monde soit sanctifié. Ça vous choque, est-ce que vous en pensez ?
L'expression interflorant.
C'est pas de la théologie là. Non, c'est-à-dire que les fleurs, c'est pas nous qui les faisons, quoi. Bon, on est plus qu'un interflorant, on est des garçons de salle, si vous préférez. Hein, il y a le cuisinier, c'est le bon Dieu qui fait là, les bons petits plats, et on vous les porte pour que vous puissiez vous régaler, quoi. Ou prenez l'image que vous voulez, bon, ce ne sont que des images. Hein. Elles ne veulent pas grand-chose.
Les fleurs, c'est
poétique. Oui, voilà.
Qu'est-ce que vous entendez par sacerdoce baptismal? Est-ce que c'est vous avez employé l'expression être pour les autres Jésus? Ça n'est donc pas spécifiquement le fait de donner le baptême. Je crois avoir entendu dire aussi que dans des cas extrêmes, chacun.
Vous arrêtez. J'y reviens tout à l'heure en parlant du baptême, non, d'accord? Et si je réponds pas à votre question, vous me m'arrêtez. D'accord. Okay. Bon. Alors, il faut que j'avance un peu plus. Hein. Sacrement de l'Église et sacrement de la foi. Il faut croire au Christ, à sa parole, y adhérer, évidemment, pour accueillir son don. D'où l'importance de la parole annoncée dans les sacrements. Il y a toujours une parole annoncée. À la parole du Christ qui éclaire ce qu'on va vivre. Hein, on ouvre la Bible, on lit la parole de Dieu, hein, même dans le sacrement de la confession, normalement, il devait demander, ou les prêtres, souvent on ne le fait pas pour des questions pratiques, mais on devrait lire un passage de la parole de Dieu. Donc, non seulement parce que ça éclaire ce qu'on va célébrer, ça donne le sens, hein, on le redirait tout à l'heure avec la matière et la forme, mais aussi parce que. C'est la parole qui suscite la foi. Et que la foi, c'est la réponse à la parole. Donc toujours, on annonce la parole et ensuite on agit. Vous voyez, tous les sacrements, c'est d'abord liturgie de la parole, ensuite on se marie. Sacrement du mariage, c'est après, il faut écouter la parole de Dieu. Pareil pour le baptême, pareil pour tout, l'Eucharistie. Ok. Alors, le Concile Vatican de SC, c'est Sacro Sanctum Concilium, numéro 59, dit « Les sacrements ont pour fin de sanctifier les hommes, hein, en diffusant en nous le don de son esprit, ça c'est moi qui rajoute, la sanctification, c'est ça, on reçoit l'Esprit Saint, je vais préciser tout à l'heure, donc, un, sanctifié par le don de l'Esprit Saint, d'édifier le corps du Christ, donc on s'unit au Christ, donc on fait un seul corps avec lui, on fait grandir le corps du Christ, rendre le culte à Dieu, hein, ça c'est le fait de l'action liturgique, hein, ça, Emmanuel pour mieux l'expliquer. compliqué que moi, sans doute.
C'est le prochain cours,
ok. Donc c'est à la fois l'action de Dieu sur le peuple et l'action du peuple vers Dieu, quoi. À cette rencontre qui va s'exprimer parce que ce peuple, il a un langage, quoi. La liturgie, c'est comme un langage pour qu'ensemble on s'exprime envers notre Dieu, quoi. Et on lui rend le culte, le devoir de religion. On dit plus ça, j'aime beaucoup cette expression, on peut vous rappeler, on a un devoir de religion, quoi. Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, quoi. Et à César ce qui est à César, mais on rend beaucoup à César, mais pas à Dieu. Mais à titre de signe, ils ont aussi un rôle d'enseignement. Non seulement ils supposent la foi, mais encore par les paroles et par les choses, ils la nourrissent, la fortifient, l'expriment. C'est pourquoi ils ont dit sacrement de l'info. Et très certainement, dans le prochain cours, on vous expliquera que l'ex orandi, l'ex credendi, comme la célébration des sacrements est l'expression de la foi de l'Église, et est un enseignement, une catéchèse. Et on célèbre comme on croit. Je me permets encore une petite parenthèse. Aussi, c'est très personnel. Je ne vous oblige pas à être d'accord avec moi. Mais quelque chose qui me tracasse personnellement, c'est comment se fait-il que dans notre pays de France, la génération des prêtres, moi je suis plutôt un prêtre intermédiaire, j'ai 58 ans, donc je suis entre les anciens et puis un peu la nouvelle génération. La génération qui m'a précédé, je crois, me semble-t-il, qu'elle a beaucoup investi sur les milieux les plus pauvres. À travers la JOC, le mouvement latin catholique, et beaucoup de choses, ou les mouvements ruraux avec les paysans, etc. Comment ça se fait que l'Église de France, qui a tellement investi sur ces milieux-là, aujourd'hui, on ne les a pas, ou quasiment plus, et que c'est plutôt les milieux privilégiés, aisés, pas forcément financièrement, mais culturellement, qui remplissent nos églises. C'est caricatural, mon propos. Hein. Mais franchement, j'appuie pas mal, comme vous sans doute, il y a quelques communautés de pauvres qui fonctionnent, hein, évidemment. Mais globalement, l'Église de France est une église d'un certain milieu.
Mais peut-être qu'ils avaient basculé un peu, ça va être un peu caricatural de ma part, mais peut-être un peu dans le social. Ils avaient peut-être un peu abandonné, voyez, pour s'occuper, enfin, j'allais dire, étaient peut-être devenus une ONG plutôt que garder la verticalité du message.
Mais peut-être. Mais vous
voyez, les prêtres ouvriers aussi comme ça, enfin je veux dire, ils se sont peut-être fait happer par...
On ne va pas analyser la chose, je vous donne simplement le fruit de ma réflexion. Personnellement, je pense que ce qui forme le peuple de Dieu, c'est deux choses, c'est les sacrements et la catéchèse. Enfin, la liturgie et la catéchèse.
Oui, mais peut-être qu'ils
ont... Et comme ces deux lieux qui ont été en crise très fortement, la liturgie, alors chacun peut avoir ses opinions, etc., mais ça empêche qu'on peut être tous d'accord pour dire qu'il y a une grosse crise au niveau de la liturgie. Or, c'est le premier lieu de la formation, l'ex-credenti, comme je célèbre, je crois, quoi. Et là, il y a eu une perte, un déficit terrible, et donc la plupart des chrétiens sont formés par la liturgie. Il y a très peu de gens qui participent à nos groupes d'élite, à l'Athénée, bon, si vous êtes déjà assez nombreux, j'admire, mais vous comprenez que vous faites partie des gens qui cherchent, mais le peuple de Dieu, voilà, ils viennent à la messe pour le mieux. Et, oui.
Je pense qu'il y a une phrase qui me vient à l'esprit dans le message, c'est de Saint Thomas qui nous transmet ce qui a été contemplé. Je pense qu'il y a une part de cette catéchèse en fait qui n'a pas été vécue et retransmise derrière et qui a été liée aussi à une évolution sociale et politique.
Je ne veux pas m'étendre, on ne va pas trop analyser. Je veux juste faire le lien sur la façon dont on célèbre, c'est la façon dont on croit, et que si on n'est plus dans les clous au niveau de la célébration, eh bien, on appauvrit le peuple de Dieu. Et pareil pour la catéchèse, qui est l'autre lieu où on a les masses, et si ça, c'est en crise, ben, mais bon, ça, c'est l'histoire ancienne, on va dire. Hein, j'espère que...
2022, tout ressuscité.
Avec de nouveaux missels, entre autres, chacun est recadré, là. Ok. Vous comprenez qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Ok. Alors, ce sont les sacrements du salut, donc sacrement de la foi, sacrement du salut, donc qui sauve, qui restaure le lien avec Dieu. Donc ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce n'est que le déploiement de la vie baptismale, ce n'est que d'Eucharistie en Eucharistie, de sacrement de pardon en sacrement de pardon, que l'homme, le petit bonhomme qui va recevoir le baptême, va peu à peu retrouver la ressemblance. Et l'autre nom de ça, c'est la sainteté. C'est quoi le saint ? C'est celui qui s'est laissé transformer peu à peu par la vie des sacrements, par cette communion avec Dieu. D'accord ? Donc les sacrements confèrent la grâce qu'ils signifient. Ils sont efficaces parce qu'en eux, le Christ lui-même est à l'œuvre. Vous savez que saint Augustin, vous ne savez pas plutôt, je pense, mais dans un premier temps, saint Augustin définit le sacrement comme un signe sacré uniquement. Donc une définition très, très large. Donc y compris une démarche de prière ou quelque chose comme ça. Bon, tout était signe sacré. C'est pour ça que dans la traduction du mot mystère, mysterion, en grec, a été traduit par sacramentum en latin. Donc le sacrement, c'est la traduction du mot mystère. Le mystère, c'est quelque chose de visible, quelque chose d'invisible, quoi. Ce que je vois est moins grand, c'est la pointe de l'iceberg, quoi. Ce que je vois est moins important que ce que je ne vois pas. Si je rentre dans une pièce avec une petite bougie, là, cette pièce est très grande, bon, je vais voir une zone de lumière. Mais ce que je ne vais pas voir est plus grand que ce que me donne la bougie. Si la bougie augmente, je vais voir davantage, mais ma pièce est tellement grande que... Voilà, ça c'est le mystère. Donc ce n'est pas mystère et boule de gomme, il n'y a rien à comprendre. Si, il y a quelque chose à comprendre, qui est très lumineux, mais c'est toujours plus grand, parce que ça concerne Dieu, donc forcément, le mystère est toujours plus grand que ce que je peux en comprendre. Donc d'un premier temps, le mot sacrement était compris comme ça uniquement, et ce n'est que dans un deuxième temps qu'il a été c'est focalisé et attribué simplement aux sept sacrements, si bien que l'Église a distingué le sacrement des sacramentaux, le sacramental. Vous connaissez ce mot-là ? Donc les sacramentaux, c'est toutes les actions de l'Église qui ne sont pas, qui font pas partie des sept sacrements, mais qui ont une force qui vient de la démarche de l'Église, hein, qui vient de la force de l'Église elle-même, et de la foi de celui qui le reçoit. Par exemple, si je fais une bénédiction chez vous, ou une bénédiction de médaille, ça va dépendre surtout de votre foi. Ce n'est pas magique. D'accord ? Par contre, le sacrement, il est ex opere operato, il accomplit ce qu'il dit, quoi. Que vous y croyez, que vous n'y croyez pas, ça s'accomplit, c'est. À l'Eucharistie que je célèbre, moi, pécheur, elle vaut, excusez-moi de dire ça, l'Eucharistie du Saint-Curé d'Ars. C'est le même Jésus, quoi. Donc, que le curé soit pécheur ou pas pécheur, ça s'accomplit, ça se fait. Que celui qui vient de communier soit un grand saint ou pas, ça ne dépend pas de vous que l'Eucharistie soit l'Eucharistie. Hein ? Si vous communiez 100 fois, vous communiez, vous faites un sacrilège parce que ça reste Jésus, quoi. D'accord ? Ça, vous le savez, hein ? Donc, on distingue les sacramentaux et les sacrements, hein, donc ceux qui est efficace en soi de ceux qui dépend vraiment de la foi de l'Église ou de notre foi personnelle. Et évidemment, pour la fécondité, pour les fruits du sacrement, plus vous avez la foi, plus votre réponse est généreuse, plus ça portera du fruit. Donc ça, c'est du côté du fruit. Et du côté de la réalité, ça ne change rien. Ça va, ça ? Un peu technique, mais je pense qu'il faut bien que vous l'entendiez au moins une fois. Donc, la grâce des grâces, c'est quoi ? Ou c'est qui ? C'est Dieu. Oui, c'est Dieu, mais... C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est vraiment le don par excellence, à la personne don. Si vous relisez l'encyclique de Jean-Paul II sur l'Esprit Saint, c'est magnifique, il appelle la personne don. Combien plus le Père donnera-t-il son Esprit à ceux qui le lui demandent, dit Jésus. Vous pouvez tout demander au Père. Mais combien plus donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent, hein, ça c'est Luc chapitre 11, verset 13. Donc le truc à demander, c'est l'Esprit Saint, quoi. Et l'Esprit Saint vient dans chaque sacrement. Vous reprenez tous les sacrements, il y a une effusion de l'Esprit Saint, venue de l'Esprit Saint. Il y a, j'aime beaucoup dans le texte de l'Annonciation que nous avons entendu pour Noël, avant Noël, l'Esprit Saint qui vient sur Marie. Et il y a trois passages où il y a deux verbes grecs qui sont liés ensemble et qu'on retrouve dans l'Écriture. Donc c'est au moment, dans Isaïe, lorsqu'il prophétise, et le Saint des airs refleurira. Il annonce que dans une période de sécheresse désertique, il n'y a plus rien, c'est la mort. Le prophète annonce que l'Esprit Saint viendra sur et le Saint des airs refleurira. Deuxième passage, l'Annonciation. Troisième passage. Vous êtes perdu là ? La Pentecôte, sur les apôtres, l'Esprit Saint qui survient sur les apôtres, pour faire de cette communauté ce qu'il a fait pour Marie avant. Il est donc une communauté de disciples. Donc l'Esprit Saint vient demeurer en eux. Alors, on va dire que l'Esprit Saint, c'est la grâce incréée. La grâce incréée. Parce qu'il est Dieu, il n'est pas créé, l'Esprit Saint. D'accord ? On va parler de la grâce incréée. Que le mot grâce est un mot qui est vachement ambigu. Pas ambigu, il est très riche, pardon, il n'est pas ambigu du tout, mais il est très riche de sens. Être gracieux, la beauté, la grâce, la gratuité, être gracié, un justicier qui est gracié, voilà, donc une remise de paix, donc gratuité et beauté. Et tous ces sens sont contenus dans la grâce. Mais la grâce des grâces, c'est la personne grâce, c'est l'Esprit Saint. Ok ? Qui fait de Marie Saint-Jean, et de l'Esprit Jésus. Et donc, c'est lui qui nous est donné, l'Esprit Saint. Mais la venue de l'Esprit Saint en nous, dans cette effusion de l'Esprit qui est chaque sacrement, on va commencer évidemment par le baptême, va faire une espèce de greffe en nous qu'on va appeler la grâce créée ou la grâce habituelle. Alors, vous pouvez noter ces termes-là parce qu'on va distinguer la grâce actuelle de la grâce habituelle. Il n'est pas réservé aux chrétiens d'avoir des grâces. Vous pouvez croiser un païen qui va dire « Oh, aujourd'hui, j'ai une grâce. » Et c'est vrai. Et peut-être même qu'elle vient de Dieu, cette grâce. Bon, Dieu, il n'a pas que les chrétiens. D'accord, hein. Mais c'est des grâces ponctuelles, actuelles. On va les appeler des grâces actuelles. Pour distinguer de la grâce baptismale, de la grâce créée, c'est tous les mêmes termes qui veulent dire la même chose. Hein. Grâce créée, grâce habituelle, grâce baptismale. La grâce baptismale est une grâce habituelle. On va entendre le baptême de Jésus, le ciel se déchire et l'Esprit Saint vient comme une colombe reposer sur Jésus. Et Jean-Baptiste dit, j'ai vu l'Esprit venir et reposer sur Jésus. Et il ne quittera plus Jésus. Et chaque baptême, il n'avait pas quitté avant non plus. Mais pour nous, chaque baptême, c'est le ciel qui se déchire. Ce qui séparait ne sépare plus. La communication, regarde, le baptême. Ce qui séparait ne sépare plus, la communication rétablit mon lien ici, à travers le ciel qui se déchire. Et l'Esprit Saint vient, tel une colombe, reposer sur moi et demeurer. Alors, notre problème à nous, c'est que, avec toutes nos ambiguïtés, notre péché, façon de pactiser avec le mal, l'Esprit Saint se retire au-dedans de nous, au-dedans de nous. Il ne nous quitte pas, hein, il ne peut pas. Il est lié. Hein, c'est le sceau, je vous redirai tout à l'heure, je crois. C'est le sceau, c'est l'aspect caractère qui nous est donné, qui fait que l'Esprit Saint, il est lié pour toujours avec nous. Par contre, il peut se retirer dans l'arrière-boutique, l'Esprit Saint. Ou bien on lui met des boulets aux pieds comme les Dalton. Il ne peut pas se déplacer parce qu'il a des boulets, des petits boulets ou des gros boulets. Et tous les petits chrétiens, ils ont l'Esprit Saint. Mais c'est une vie spirituelle qui va aller croître, je ne peux pas vous parler de ça. Mais c'est sûr que tout ça va croissant, c'est pas magique. Hein. Ça va croissant, mais ça empêche, parce qu'on peut affirmer que tout chrétien baptisé a l'Esprit Saint. Et pour la plupart, l'Esprit Saint, il est dans sa cafouche en arrière-boutique, quoi. Et donc, il faut le refaire venir en avant de la boutique pour qu'il conduise. comme le dit Arsimeon, ou comme l'évangile d'aujourd'hui, on voit Jésus qui est conduit par l'Esprit Saint. Dès que Jésus reçoit l'Esprit Saint, c'est poussé par l'Esprit Saint qui va au désert, c'est poussé par l'Esprit Saint qui vient à Bethléem, à Nazareth chez lui, c'est poussé par l'Esprit Saint qui retourne à Capharnaüm, qui commence sa mission. Ben, c'est l'homme de l'Esprit Saint. Et nous, on doit être les hommes et les femmes de l'Esprit Saint, qui sommes habités par cette grâce habituelle permanente. Et la prière, c'est quoi ? Ben, vous rejoignez cette présence de l'Esprit Saint qui est en vous. Dieu est au-dedans de vous. Dieu a fait de moi sa demeure. Si vous m'aimez, mon Père vous aimera, nous viendrons en vous, nous ferons en vous notre demeure. C'est dingue, quoi. J'ai la Trinité par l'Esprit Saint qui est en moi, que je peux rejoindre. Et cette vie dans l'Esprit, je la déploie, quoi. Je la fais vivre. Ça va, donc ? Grâce incréée, grâce créée, ok ? Grâce actuelle, grâce habituelle, ou baptismale. Bon, je vous ai mis Romain, il y a plein de textes de saint Paul qui vous montrent comment c'est l'Esprit Saint qui nous fait ce travail de la divinisation par le moyen des sacrements, essentiellement. Parce que dans la prière, ce n'est pas un sacrement, mais ça empêche que l'Esprit Saint travaille aussi. Mais il y a une efficacité de force dans la vie des sacrements qui ne dépend même pas de vous. Quoi. Profitez. Hein. Ça, on fait une petite pause quand même, peut-être, non ?
Les grâces habituelles sont donc bien des grâces créées, alors ?
Non, créées. On appelle la grâce créée. Ah, grâce habituelle, c'est une grâce créée. C'est un quelque chose de la vie de Dieu en nous.
Et les grâces actuelles sont les grâces créées aussi ? Les grâces actuelles ?
Oh, c'est des clins d'œil de Dieu, c'est pas créé. On dit créé parce que ça laisse une trace en nous, quoi. Il y a un quelque chose de Dieu qui vient en nous. C'est une greffe. Qui nous rend, dit saint Pierre dans sa deuxième lettre, qui nous rend participants de la vie divine. La grâce habituelle nous rend participants de la vie divine, de la nature divine, dit-il.
Donc, il n'y a qu'une seule grâce incréée, c'est l'Esprit Saint.
Qu'une grâce incréée, c'est l'Esprit Saint. Et après, il fait des clins d'œil à qui il veut. Les clins d'œil, c'est les grâces actuelles. Quoi. Bon, c'est pas de la théologie que je vous fais, mais vous... Bon. En revenant de ce qu'on a dit là, vous comprenez aisément ce qui est dit dans le catéchisme, c'est que les sept sacrements touchent tous les états importants de la vie chrétienne. Ils donnent la naissance. C'est quel sacrement ? Qu'est-ce qui nous fait naître ? Ok. Qu'est-ce qui est la croissance ?
L'Eucharistie.
Après, tout est dans tout et réciproquement. Hein. Alors, il ne faut pas trop couper les cheveux au couteau parce que les sacrements de l'initiation font partie de la naissance. La vraie naissance, c'est les trois sacrements de l'initiation. Mais il y a quand même une naissance et une croissance, une fortification. La guérison.
Hein?
Non, guérison.
Ah,
Réconciliation. Ouais. Émission.
L'or.
Oui, mais ah oui, pardon, parce que. Oui, bah, on va comprendre mieux tout à l'heure. Mariage et ordination. C'est comment ordonner à d'autres pour la construction de la société et de la famille. En cela, il existe une certaine ressemblance entre les étapes de la vie naturelle et les étapes de la vie spirituelle. Ça, c'est le catéchisme, tout ça. Hein. Dans cet encarnisme, l'Eucharistie tient une place unique en tant que sacrement des sacrements. Tous les autres sacrements sont ordonnés à celui-ci comme à leur fin, parce qu'ils donnent le Christ lui-même. Voilà, le sacrement de l'Eucharistie est toujours mis au-dessus de tous les autres, parce qu'il y a, pour le coup, une grâce toute spéciale, où il y a une réalité, vous verrez ça dans le prochain cours, je pense, toute particulière qui est mise à cette transsubstantiation, où le Christ lui-même vient dans ce signe du pain et du vin.
Et la confirmation ?
Elle est du côté, bon, on va le voir tout à l'heure quand on parlera de confirmation. Ouais. Alors, on distingue les sacrements des morts et les sacrements des vivants. Un sacrement des morts, comme le baptême et la pénitence, qui s'adresse à ceux qui sont privés de la grâce, qui vont entrer dans la vie de la grâce, et le sacrement des vivants, c'est tous les autres, qui accroissent ou entretiennent la grâce déjà conférée par les précédents. Ça, je vous le dis, des fois on l'entend, mais c'est moins important. On distingue aussi pour chaque sacrement la matière et la forme. La matière, c'est la matérialité du signe, et la forme, c'est la parole et geste du Sauveur qui en précise la signification surnaturelle et en assure l'efficacité. Donc, dans tout sacrement, il y a matière et forme. Donc, il y a un geste qui est posé, il y a une matière qui va porter un signe et une parole qui va donner du sens à ce signe. Ça va, ça ? Je voulais vous dire tout à l'heure un petit détail. Et vous avez bien noté comment, à quel moment le prêtre met l'étole. On ne met pas l'étole à n'importe quel moment. L'autre jour, j'ai interpellé un confrère parce qu'il déménageait les bancs dans l'église avec une étole. Parce qu'il était à confesser, il a arrêté, il avait du temps, donc il s'est mis à ranger les bancs. Je dis non, on ne peut pas faire ça. Quoi. Pourquoi ? L'étole, c'est un bout de tissu. Quand je mets l'étole, je prends la charge du Christ, le joug, comme les bœufs, là. Parce que je vais poser les actes du Christ. C'est là que je suis vraiment prêtre. Il y a plein de trucs que je fais, que je fais comme prêtre, mais ce n'est pas les actes de Jésus. Par contre, quand je fais l'Eucharistie, je dis, prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ce n'est pas le corps de Jean-François Vaudrin, vous n'avez rien à foutre, tant mieux pour vous. Hein. C'est le corps de Jésus. Je prête mes lèvres, mon être tout entier au Seigneur qui, par moi, passe pour se donner lui. D'accord ? Quand je te confesse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je dis pas Jésus te confesse, c'est je. Donc j'agis vraiment in persona Christi capitis, dit-on, dans la personne du Christ tête. Et donc c'est dans ces actes-là que je mets l'étole. Parce que pour bien signifier que là, je prends le joug du Christ, c'est cette grâce qui m'a été donnée par l'ordination qui me permet, dans certains cadres bien délimités, d'agir au nom de Jésus. Quoi. Voilà. Question, réaction ? Tout ce qu'on a dit pour l'instant ?
Je comprends bien ce que vous dites juste à l'instant. D'un côté, je comprends bien. Mais d'un autre côté, ce prêtre qui fait quelque chose qui est nécessaire parce qu'il doit déménager les bancs, etc. Il n'est pas dans l'humilité aussi de Jésus et de Dieu qui s'est incarné dans un homme pour vivre aussi la vie d'un être humain ?
Ah, si, pas de problème. Mais simplement, il aurait pétole, quoi.
Ouais.
Non, c'est pour distinguer parce que bon, ce sont que des signes, mais pour lui et pour nous, moi ça me gênait quoi, parce que moi aussi je déplace les bancs.
Mais un fidèle peut déplacer les bancs, c'est la différence. Voilà, c'est un fidèle ne peut pas donner l'absolution.
C'est important que les gens sentent à quel moment on va vraiment agir avec une grâce toute spéciale au nom de Jésus.
Voilà, c'est ça.
Enfin, moi, ça me,
on
ne
peut pas dire la messe.
C'est comme ça, mais ça a du sens.
Voilà, je pense que c'est ça.
Sinon,
est-ce qu'on accorde de l'importance au signe ?
Oui, mais parce que mais on est parce que ça c'est
capital. Vous êtes prêtre. Hein. Oui. Il y a des choses que nous on a baptisé, on ne fera pas. Oui. Parce que vous avez justement
le signe, c'est bien l'incarnation, hein, parce qu'on a un corps. Et on a besoin du signe. C'est par le visible qu'on accède à l'invisible. Le sacrement, c'est ça, hein, le signe visible d'une réalité invisible. C'est une visible et efficace de réalité invisible. C'est trop bon. C'est un signe moyen, on l'a dit tout à l'heure. Et parce qu'on est charnel. Et Dieu nous rejoint dans l'incarnation. Dieu s'est fait petit enfant. Pourquoi il n'a pas besoin de ça? Dans toutes les religions, il ne se fait pas homme. Ça scandalise les musulmans et tout le monde. Mais ça fait partie de. Parce qu'on est charnel et que pour nous, le spirituel est dans le charnel, quoi. Traverse la chair. Et donc, la sacramentalité, c'est vraiment c'est le mystère de l'incarnation qui se poursuit à travers des signes, mais qui exprime ce caractère charnel de la vie de la grâce de Dieu qui traverse notre humanité pour la transfigurer. Quoi.
Comme un médecin met un caducé sur son pare-brise de voiture, c'est pas dans le même ordre, mais je veux dire, tout le monde ne peut pas mettre un caducé sur le pare-brise de sa voiture.
Ben non.
Voilà, parce qu'il est médecin.
Ça va là, vous voulez souffler, peut-être comment ?
Non, c'est bien.
Allez, je vais continuer. Bon. Alors, bon, pour les sept sacrements, donc les trois sacrements d'initiation chrétienne et les deux sacrements de guérison et les deux sacrements du service de la communion, ou de la mission mais de la communion. Ok. Le baptême. Vous connaissez le sens du mot ? Baptiser. Ouais, j'ai oui, entendu. Hein. Plonger, immerger. Baptizein en grec, c'est plonger. Vous connaissez les premiers chrétiens, et puis même ça peut encore se faire, qui la plupart, même si dès les actes des apôtres, on voit bien que des familles entières, donc des enfants, sont baptisés, ça empêche qu'il y a eu beaucoup d'adultes à être baptisés, à intégrer le giron de l'Église. Donc ils descendaient d'un côté de la piscine baptismale, tournés vers l'Occident, le pays du soleil couchant. Là, ils renonçaient au mal à Satan et à ses œuvres. Ils descendaient dans la piscine baptismale, qui était en général octogonale, pas toujours, mais souvent octogonale, bicotée, en mémoire du huitième jour, le jour de la résurrection. Le septième jour, c'est l'achèvement de la création. Le huitième, c'est, pour ceux qui ont vu le film Le huitième jour, c'est un vieux film mais, qui a eu des Oscars. Un très beau film et qui est plein de symboles bibliques extraordinaires. Et donc, pourquoi on a souvent des clochers qui font huit côtés, ou bien des portes Serge Pascal qui font huit, qui sont octogonaux, et les baptistères d'autrefois qui sont très souvent octogonaux, pour signifier ce huitième jour, le jour qui n'a pas de fin. Quoi. Le jour de la résurrection. On est plongé dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc, il descend dans la piscine baptismale, là il renonce au mal à Satan et à ses œuvres, et ils se font baptiser, ils retournent, ils font la conversion, ils tournent pour sortir de l'autre côté de la piscine baptismale, tourner vers l'Occident, vers l'Orient, pardon, le pays du soleil levant, le pays de la lumière. Hein, c'est pour ça que toutes nos églises sont orientées, nous portent vers Jésus qui est la lumière du monde, la Lumen Gentium. Voilà. Il y a tout ce mouvement qui passe par les eaux. Par les eaux baptismales, et on reçoit le vêtement blanc qui est le vêtement certes de la lumière, de la pureté, de la purification, mais aussi le vêtement de la libération, puisque la toge blanche était la toge des esclaves affranchis chez les Romains. Donc les chrétiens reprennent ce signe qu'à travers les eaux du baptême, et il y avait une libération, hein, donc libérer du péché originel et des péchés personnels et de toute peine de péché, par la grâce du baptême. Donc on revêt le vêtement blanc, la toge des esclaves affranchis. C'est beau ça, non? C'est ça qu'on appelle le baptême aussi le bain de la régénération. C'est une expression que vous avez déjà entendue. Ou l'illumination. Donc on est illuminé par le Christ, on devient enfant de lumière. Alors là, je vous ai mis ce que nous dit le catéchisme par rapport aux fruits du baptême, donc libère du péché, régénère comme fils de Dieu, a fait une création nouvelle avec un cœur nouveau. Et le catéchisme dira que la prière, c'est la respiration du cœur nouveau. C'est la vie du cœur nouveau. Et vous écouterez dans l'évangile du dimanche, c'est le seul évangile en Saint-Luc où, une fois que Jésus est baptisé, il prie et le ciel s'ouvre. Alors pourquoi le ciel s'ouvre ? Parce qu'il prie ou parce qu'il est baptisé ? C'est les deux, c'est ensemble. Parce que dès que je suis baptisé, pour nous, comme catéchèse, hein, le baptême fait que le baptisé a un cœur nouveau, et ce cœur nouveau s'exprime comment ? Bah, par la prière, par ce dialogue aimant avec son Père du ciel. Donc normalement, la prière est quelque chose de co-naturel à la vie du baptême. Pas seulement la prière comme expression de devoir de religion, rendre à Dieu ce qu'il y a à Dieu, pas seulement la prière comme demande nécessaire, mais bon, c'est bon, il faut se demander parce qu'on est des pauvres, on n'a pas du tout demandé à Dieu, mais la prière comme dialogue aimant d'un fils avec son père. Pour rappeler l'oraison, l'adoration, qu'importe les mots qu'on donne, prière silencieuse, prière du cœur, tout ce que vous voulez, qu'importe le style, la manière, mais normalement, tout chrétien, et c'est terrible, franchement, pour moi, c'est une des grandes tristesses, je trouve, c'est que trop peu de chrétiens vivent comme ça, quoi. Alors que ça devrait être, c'est notre vocation, c'est notre nature, quoi. On ressemble, hein, Quentin Lemessa dit ça à Noël, là. Depuis la grâce du baptême, on ressemble plus à Dieu qu'à ce monde. On fait partie de cette nature, de ce monde visible, mais on ressemble plus à Dieu qu'à ce monde visible, quoi, depuis la grâce du baptême, quoi. On est les fils adoptifs de Dieu, quoi. Et donc, on doit vivre dans, sa, dans ce dialogue aimant avec lui, dans cette respiration. Donc, la prière, c'est la vie du cœur. Bon, évidemment, c'est le baptême qui nous incorpore au Christ, à l'Église. Christ comme membre du Christ, co-héritier avec lui, temple de l'Esprit Saint, la grâce sanctifiante et la grâce de la justification. La grâce sanctifiante, c'est la grâce créée, la grâce baptismale, autre nom, grâce sanctifiante, et qui est une grâce de justification, pour faire simple, qui nous ajuste à Dieu, comme le boulon et le vis là, qui sont ajustés l'un à l'autre. Par la grâce du baptême, on est justifié, ajusté à Dieu. Et on reçoit les vertus théologales, non, vertus théologales de foi. Donc ça, ça on veut dire, c'est l'organisme chrétien, l'organisme du baptême. Je reçois comme un nouveau moteur, avec la foi, l'espérance et la charité, et les dons du Saint-Esprit, hein, tout en permettant de croire dans le bien et les vertus morales. Mais les dons du Saint-Esprit, qui sont très souvent mal compris, parce qu'on prend les dons du Saint-Esprit comme des dons, comme des puissances d'action. Alors que ce n'est pas des puissances d'action, ça c'est les vertus théologales, c'est des puissances réceptives, les dons du Saint-Esprit. C'est comme des oreilles, c'est comme des antennes. Et avec le baptême, et surtout la confirmation, on va invoquer les sept dons du Saint-Esprit qui va déployer ses antennes pour capter l'Esprit Saint, pour être nous aussi des gens qui sont mus par le Saint-Esprit. Mais comme le Saint-Esprit, on ne sait pas ni d'où il vient, ni où il va, il n'y a pas de programme, et que... Il n'y a pas deux êtres, il n'y a pas deux âmes, comme dit Saint Jean de la Croix, qui se ressemblent par la moitié. Comprenez qu'on a besoin de grosses antennes pour capter son souffle, pour pouvoir nous guider. Qu'est-ce que Dieu veut? Et l'Esprit Saint va me guider. Et ça, c'est le job des dons du Saint-Esprit, des sept dons du Saint-Esprit, de capter. Donc, les sept dons, c'est que des... c'est comme des sept orientations différentes d'une même capacité à capter le même Esprit Saint. D'accord? Ce n'est pas des trucs... cloisonné, hein. C'est le don du Saint-Esprit, c'est une manière de capter en différentes situations l'Esprit Saint. Ça va, ça? C'est très important parce que cette vie de l'Esprit, cette vie de croissance des dons du Saint-Esprit, c'est quelque chose de très vivant. On a l'appareillage au baptême, mais c'est petit. Et donc, il faut vraiment le déployer, notamment par une vie spirituelle qui va développer la confirmation, hein. Pareil à l'ordination, on va retrouver ça dans le sacrement de l'ordre. Pour notre mission, hein, au service des autres, on va recevoir des nouvelles oreilles, mais pour capter au mieux l'Esprit Saint. Mes images vous parlent ou...
Oui.
Comment entre la grâce, les vertus, les dons du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit Saint, ça, c'est moins un peu, on s'appuie. C'est bien que ça parle du bon Dieu, mais comment? Bon, ça nous incorpore à l'Église, quatrièmement, pierre vivant pour l'édification, vous connaissez cette image-là, nous fait participant à sa mission, est inclus, c'est sûr, dans le fait de faire partie de l'Église, d'être acteur pour transmettre, parce que je vous ai dit, l'Église, elle est pour le monde, et donc les membres de l'Église sont pour le monde. Quoi. La finalité, c'est la mission, quoi. Transmettre la vie de Jésus, pour que tous entrent dans cette communion des hommes entre eux, et la communion avec Dieu. Alors, qui peut baptiser? On baptise depuis toujours à tout âge. Attends, pardon, j'ai oublié un truc. Vous vous souvenez de ce très beau texte de le jour de la Pentecôte, quand Pierre sort faire son discours, hein, tout de suite, il dit, ben voilà, on lui demande, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Que devons-nous faire? Faites-vous baptiser, dit-il, convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Voilà comment il résume au jour de la Pentecôte, un des textes les plus anciens de la Bible. Hein. On nous dit, voilà, tout de suite comment ils ont compris le baptême, c'est pour le pardon des péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Et tout de suite, on voit les apôtres qui vont baptiser, et tous les hommes, quels que soient les âges, mais il faut la foi. Ça reste dès le début. Ils donnent à tous les hommes, aux croyants, Dieu, aux païens, etc.
mais toujours baptême et à la fin. Crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et toute ta maison, hein, déclare Paul au gelée du récit dans Philippe. Il dit à Philippe, le geôlier reçut le baptême sur le champ, lui et tous les siens. Donc c'est pas vrai de dire qu'à votre fond, on baptisait que les adultes. Il y a plusieurs familles comme ça, on voit qu'ils sont baptisés avec des enfants. Quoi. Forcément, on veut donner les gens se baptiser avec tout leur. On veut donner le meilleur aux enfants, quand même. Dans le meilleur vêtement, le meilleur.
J'ai une question. On dit plutôt qu'on reçoit la foi au baptême, en fait.
Oui, mais les réponses. Alors, la foi, comme. Là aussi, le mot foi est un mot en aigu. Elle est d'abord réponse à une parole. Adhésion. Ensuite, elle est une grâce théologale qui a Dieu pour objet et Dieu comme origine. Donc c'est là aussi, c'est le mot est plus fort dans le sens que c'est quelque chose qui est ancré en nous et qui est le don du baptême. Donc, bon, sachant que très souvent, les dons de Dieu ne sont pas. Il n'attend pas une minute avant le baptême pour nous donner ses dons. Parce que si je chemine vers le baptême, c'est que déjà, il m'a fait signe que déjà, il m'a fait pas mal de grâce, non ? Sinon, le Gugus ne sera jamais baptisé. Donc, il n'attend pas. Mais ça empêche que le mot foi a plusieurs sens. Donc, comme réponse à une parole et adhésion à Jésus, je fais confiance. Mais à un moment donné, je reçois un quelque chose en moi qui m'établit dans un ancrage avec Jésus. Ça, c'est la foi baptismale. Tu vois ? C'est sûr que une des difficultés, c'est la richesse des mots quoi, qui sont employés pour différentes réalités qui se recouvrent, mais voilà, il faut faire des distinctions pour mieux unir.
On suppose que le sacrement a une efficacité pour donner la foi.
Ah oui.
Parce que pour le mariage, c'est encore plus compliqué, parce qu'on marie beaucoup de gens sans qu'ils aient forcément la foi.
Ah, ça, c'est un gros débat, en fait.
Donc,
si nous avons du temps, on peut l'aborder. J'essaie d'avancer, mais oui, c'est oui, sûr oui. Que.
Donc, c'est pas si binaire que ça, quoi. C'est un cheminement.
Oui, et c'est valable pour tout. Hein. Oui. Parce que là, l'ancrage dans la foi qui m'est donnée, mais cette foi va demander à être nourrie, parce que l'intelligence nourrit le cœur déjà.
Donc, ah, il faut oui, parce que quand on baptise un tout petit, de toute façon, pour enfin, au début. C'est sûr qu'il ne peut pas nourrir sa foi. Enfin,
non, mais on
il y a des graves. Voilà, et après, c'est aux parents, en effet, à faire.
Oui, après, il faut nourrir. Il ouais. Pour ça qu'il y a un engagement des parents à donner la connaissance. Oui. Parce qu'on. Voilà, nous, on ne croit pas que la religion est séparée de la raison. Exactement. On a entendu Luc Ferry, il a dit un mec intelligent comme ça qui a dit des bêtises. Il sépare complètement la philosophie de la religion. C'est dingue. Pour nous, la raison éclaire toute notre démarche, quoi. La foi est intelligente, quoi. Et la foi chrétienne est une foi intelligente. Et donc, c'est sûr qu'avec l'âge de raison, on doit donner des raisons à notre foi, quoi. Et donc, il faut l'éclairer, parce que le cœur se nourrit de la vérité, quoi.
Mais alors, justement, il y a des personnes qui pensent qu'il faut attendre que l'enfant choisisse, parce que, justement, que ce soit un acte, j'allais dire, d'adhésion, plutôt que de le baptiser à 6 jours, 3 semaines ou un mois.
Oui, parce qu'ils ne disent pas la même chose pour la nourriture qu'ils lui donnent. Ils ne demandent pas son avis. Oui. Ils vont lui donner ce qu'ils pensent bon pour lui.
Exactement, c'est normal.
Pour le vêtement, pour la langue, ils n'attendent pas qu'il soit grand pour le parler français, parce que si jamais il veut parler qu'en anglais, pour lui c'est le choix. Il ne l'apprendra jamais français. Oui. Je trouve ça bizarre que les gens pensent comme ça. Il y a plein de gens qui pensent comme ça, je suis d'accord, hein, mais.
Mais par contre, si les parents ne veillent pas justement à nourrir sa foi dès son plus un truc, l'enfant baptisé est quand même responsable de son état de baptisé. Est-ce que ce n'est pas mettre une responsabilité sur l'enfant si la famille est défaillante après dans son accompagnement pour nourrir sa foi Vous voyez, c'est peut-être pour ça que
on
les
pense
gens...
à ça aussi quand on marie des gens qui n'ont pas la foi. Quand on dit, hein? On est responsable un peu de ce qu'on est du sacré là où ils ne sont pas capables de porter forcément. Oui, je suis d'accord. Ouais.
Parce qu'une fois que l'enfant est baptisé.
Est-ce que je ne vais pas faire un cadeau à quelqu'un parce qu'il risque de casser le cadeau
Ah oui, non, mais.
Je reconnais que c'est une vraie question.
Je pense que c'est pour ça que certaines personnes pensent qu'il faut mieux que l'enfant choisisse parce qu'il sera conscient.
S'il y avait une cohérence, si les gens disaient ça et qu'ils donnaient vraiment les moyens à l'enfant de connaître Dieu ça m'irait assez bien quelque part.
Le problème, c'est que ça n'arrive jamais.
Avec le danger que la connaissance, c'est au niveau de l'intelligence, ça ne suffit pas. Que on croit qu'il y a un don qui dépasse notre intelligence, heureusement pour nous. Quoi. Mais ce serait cohérent. Or, les gens ne font pas ça. Il est sevré de tout, en général, même pas au catéchisme. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vienne choisir quelque chose?
Ah non, il
n'a
pas la connaissance.
Voilà, mais c'est ça, oui.
Il va rien choisir entre rien et rien, quoi. Sauf s'il rencontre un petit jeune qui n'est pas, et qui a envie de faire comme son copain. Là, ce qui arrive, on le voit bien.
J'ai une petite question quand même. Là, Dieu a lié le salut au sacrement du baptême, mais il n'est pas lui-même lié à ce sacrement.
Oui. Oui, parce que j'ai mis cette phrase qui est importante, elle est dans le catéchisme. Hein. C'est sûr que l'Église ne connaît d'autres. J'ai pas mis cette phrase. L'Église ne connaît pas d'autres moyens de salut conformément à l'ordre reçu de son Sauveur. C'est lui, Jésus, qui demande de baptiser. Ceux qui baptisés seront sauvés, ceux qui ne sont pas baptisés seront condamnés. Ou comme on lui dit Jésus. Une phrase terrible. C'est Jésus, c'est pas moi. Hein. Dans un magasin, j'étais à une librairie catholique, en grand, c'est marqué. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de croire ou de pas croire, mais de devenir. Madame, mais c'est quoi ça? Croire ou pas croire? Si, c'est fondamental. J'ai dit, si tu ne crois pas, tu vas être. Alors, donc, au niveau des moyens, on va distinguer là aussi, pardon, les moyens ordinaires du salut, qui pour nous passent par les sacrements, par le baptême, l'annonce de la foi, les baptêmes et les sacrements du salut, ce qui nous donne la grâce habituelle. Mais Dieu, lui, n'est pas prisonnier de ses sacrements. Il fait bien ce qu'il veut avec qui il veut. D'accord ? Mais il nous donne une responsabilité, une mission à son Église, c'est celle-là. Nous, on fait le job, après Dieu, on voit bien. Hein. Puis, déjà, Saint Augustin le disait, ceux qu'on attendait, ils ne sont pas là. Et ceux qu'on n'attendait pas, ils sont là. Quand vous voyez ceux qui débarquent chez nous pour demander le baptême, les adultes, tout ça, c'est incroyable, quoi. Et puis des gens qui ont tellement reçu, en fin de compte, tu...
Donc le « il » ici, c'est Dieu dont il s'agit, le « il ».
Oui, pardon, c'est Dieu, ouais, excusez-moi.
C'est la lettre majuscule.
Ouais, c'est Dieu. Ouais, excusez-moi, ouais.
J'aurais dû mettre la majuscule.
Dieu a lié le salut au sacrement du baptême, mais il n'est pas lui-même lié à ces sacrements. Alors, donc, par le baptême, je rentre dans cette vie-là, et cette vie-là est appelée à une croissance, à être fortifiée. Le sacrement de la confirmation est un sacrement qui fait coller beaucoup d'encre, et beaucoup de réformes, et beaucoup de discussions. Et beaucoup... Moi, j'ai été dans la même commission pour savoir à quelle heure on a donné la confirmation, etc. Mais, vous savez, il y a quand même deux traditions très distinctes dans l'histoire de l'Église, hein, qui est rapporté d'ailleurs dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est que au début, baptême et sacrement, baptême et confirmation formaient quasiment qu'un seul sacrement. Donc, je ne sais pas si vous êtes allé à Florence, par exemple, je ne sais pas où, vous avez le baptistère qui est en dehors de l'Église. Octogonal, le baptistère de Saint-Jean-Baptiste à Florence. Donc, les diacres ou les prêtres faisaient le baptême d'eau. Et puis après, les catéchumènes entraient dans l'église en procession, l'évêque les attendait et confirmait, achevait le baptême. D'accord ? Donc ça faisait qu'une seule célébration où c'est l'évêque qui mettait le sceau final au sacrement du baptême. Quand ça s'est démultiplié les baptêmes, il aurait peut-être fallu démultiplier les évêques, mais c'est pas facile à gérer les évêques. Hein. Donc on a préféré pas trop nombreux. Il y a eu deux options. La première, en Orient, on dit les prêtres font tout. On baptise, on confirme, on donne l'Eucharistie. Donc il y a quelques gouttes de vin dans la bouche du bébé, hier. Et ce qui empêche, après, ils font leur initiation chrétienne. Ils recommencent à zéro ensuite après. Mais enfin, le jour du baptême, ils ont la totale. Les sacrements d'initiation. Alors qu'en Occident, on a fait le choix de souligner davantage le lien à l'évêque, même s'il est déjà souligné en Orient, parce qu'il confirme avec le Saint-Crème consacré par l'évêque, évidemment. Hein. Mais en Orient, on a voulu souligner davantage le lien à l'évêque, à l'Église, en attendant que l'évêque passe dans les campagnes pour terminer le boulot. Quoi. Donc, les prêtres et les diacres y baptisent, et on attend le passage de l'évêque pour achever le travail à travers le sacrement de la confirmation. Ça correspond aussi un peu à la démarche des apôtres dans l'histoire, même si là aussi c'est un peu piégé comme discours, mais qui est quand même important, c'est qu'on voit bien que les apôtres ont d'abord connu Jésus, ils sont attachés à Jésus, il y a une dimension christologique très forte, et puis Jésus va leur dire, vous allez recevoir un autre paraclet, un parakaleo, donc un avocat, un défenseur, un ami qui tiendra à vos côtés, qui parlera en votre nom, il parlait de l'Esprit Saint, et Jésus dit bien un autre paraclet, donc Jésus a été un paraclet pour ses apôtres, un ami, un compagnon, quelqu'un qui les a guidés, éclairés, défendus, bon. Et un autre paraclet, ça va être à la Pentecôte. Donc le baptême est très fortement christocentré, et la confirmation très fortement, c'est un renforcement, une croissance et approfondissement de la grâce baptismale, plus profondément la filiation divine, plus fermement unie au Christ, augmentant en nous les dons de l'Esprit Saint. Elle rend notre lien avec l'Église plus parfait. Elle nous accorde une force spéciale de l'Esprit pour répandre et défendre la foi, pour aller de l'avant. Enfin, c'est un peu le sacrement de la maturité chrétienne, quoi. Mais bon, après, il y a plein de débats, je ne rentre pas là-dedans. Ça va, ça ou... Manuel, tu as quelque chose là-dessus ou...
Juste dire que le Ruka, c'est-à-dire le livre liturgique du sacrement du baptême des catéchumènes remplace la confirmation dans son unité avec l'acte du baptême, puisque le baptême des adultes,
oui,
de la Vigile pascale,
oui,
c'est bien successivement le baptême d'eau, voilà, sans oublier la confirmation, le tout orientant de vos baptisés à la communion. On a cette phrase de l'unité du baptême avec la confirmation.
Oui.
Qui est le format initial.
Oui. Ah, je sais pas, j'ai beaucoup de mal, vu la démarche qu'on fait lorsque. Enfin bon. Excusez-moi. Pas de. C'est mon opinion personnelle.
Ça t'intéresse pas. Si c'est vrai que c'est un peu. Enfin, alors on peut se dire qu'ils rattrapent le temps perdu, excusez-moi, mais c'est vrai que les adultes se dire qu'en effet qu'ils reçoivent, ils prennent tout en si peu de temps, c'est vrai qu'alors que nous, si on est baptisé depuis notre naissance, on a ce parcours, et c'est vrai que la confirmation arrive après quand même des années de. Ouais.
Oui, mais
ils ont
deux
ans de préparation quand même. Hein.
Oui, mais nous, entre notre baptême et la confirmation, on a combien? On a 10 ans?
Non, on n'a pas la même période de
transition. Mais dans la vie de l'Église, il y a plus des sacrements. Mais la vie de l'Église, enfin la vie chrétienne, le don est au premier. Dieu, le premier, nous a aimés. Et ça manifeste les sacrements que. Alors, on n'attend pas que tu aimes Dieu pour te donner le cadeau du baptême. On n'attend pas que tu aimes Dieu pour te donner le cadeau. Et après, tu vas déployer. Notre réponse, notre vie chrétienne sera toujours une réponse au don qu'on a reçu. Quoi. Et j'ai les moyens d'y répondre. Et donc, attendre trop longtemps pour donner ce cadeau, c'est un peu bête.
Oui, c'est vrai.
Et puis tu vas en reparler, mais pour le coup, le risque, c'est de faire la confirmation que un sacrement, une réponse de foi, une maturité de la foi.
Oui,
oui.
C'est trop intellectuel.
Oui, c'est pas ça. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de chrétiens non confirmés.
Ouais. Et donc, du coup, ils sont bancals, quoi. Ils n'ont qu'une jambe. Enfin, c'est pas une bonne image, mais. Il leur manque, c'est le baptême n'est pas complet, quoi. Il n'est pas achevé, il n'est pas confirmé leur baptême. C'est bête.
Oui, et finalement, par rapport aux protestants chez les luthériens, la confirmation, c'est hyper. On a l'impression qu'ils deviennent adultes. Enfin, c'est vrai que c'est un. Enfin, chez eux, c'est beaucoup plus finalement.
C'est un sacrement,
ça. Oui, on a l'impression que c'est plus important que chez les catholiques.
C'est aussi une église assez élitiste.
Oui, oui, mais non.
C'est une église militante, et c'est aussi très lié à ça. Mais pour nous, c'est. Le catholicisme est popu, excusez-moi. C'est popu. C'est pour tous, quoi.
Mais peut-être aussi que nous.
Et là, dans la démarche protestante, c'est pas popu.
Non, mais peut-être que les enfants aussi, après leur communion, est-ce qu'ils continuent à aller au catéchisme pour la préparation de la confirmation?
C'est ça, bazar. Parce que, attends, on entend tout ça normalement, c'est les familles chrétiennes qui portent, mais bon, on n'a plus les familles chrétiennes. Bon. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, il est déjà moins 20, hein. Ah mais vous êtes souvent fatigué, parce que je vous saoule. Bon, bah, tout à l'heure, je n'ai pas dit, par exemple, c'était une de vos questions, c'est tout le monde peut baptiser, il y a quelque chose qui est important. Mm-hmm. Je reviens sur le baptême. C'est à peu près le seul sacrement, me semble-t-il, où n'importe qui peut baptiser. Il y a le ministre ordinaire, qui est le prêtre et le diacre, et après, il y a... oui, je ne sais pourquoi je les appelle, je ne sais pas si c'est autre chose, mais... Après, il y a un autre chrétien, voire même un non-chrétien, un non-baptisé, peut baptiser, pourvu qu'il veuille faire ce que fait l'Église. Un médecin qui n'est pas chrétien, il sait que le petit bout de chou, là, fait partie d'une famille chrétienne, qui va mourir, son petit bébé, là, il peut faire... Il faut qu'il verse de l'eau en disant « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
Il n'est pas obligé d'être baptisé. Hein? Il n'est pas obligé d'être baptisé.
Non, même pas. Ah oui. Même pas parce que l'Église croit tellement à la nécessité du baptême que par la porte et par la fenêtre, le cadre de ce sacrement, il est hyper large. Quoi. Bon, il est cadré parce que du coup, normalement, il faut un certain cadre, c'est ecclésialement, mais en cas de nécessité, tout est valide. Après, on fait des rites complémentaires, mais qui n'ajoutent rien à la grâce d'abord du baptême, qui est le gamin, il est baptisé. Quoi. On retrouve un peu la même chose voyez, dans l'histoire du sacerdoce, ça, c'est un peu mon domaine, c'est par rapport au fait que l'Église a fait le choix, à un moment donné, de permettre le sacerdoce à des gens qui ne sont pas forcément des saints. C'est pour ça qu'on a distingué la vie religieuse de la vie sacerdotale. Quand on a donné l'ordination à des gens qui ne faisaient pas forcément des vœux de pauvreté, d'obéissance et de chasteté. Pourquoi ? Parce que l'Église a tellement besoin de l'Eucharistie et de tous les autres sacrements qu'elle confie ça à des gens qui ne sont pas forcément sur le lancement de la grande sainteté. Quoi. Normalement, un religieux, il se met sur la rampe de lancement de la grande sainteté. Mais alors, il ne faut pas qu'il soit religieux. Il est baso, c'est pas ce qu'il a, mais... c'est pas dire que tous les religieux sont saints, mais normalement c'est des signes prophétiques de ce qu'on est tous appelés à être. Mais dans l'organisation, les prêtres, comme moi, eh bien on n'est pas voué, enfin on est appelé par la grâce du baptême, mais pas au nom du sacerdoce d'abord, à être forcément saint pour faire notre job. Il y a une nécessité interne au job, mais voyez, c'est intéressant, l'Église permet ce truc-là. Comme elle. Un prêtre qui est défroqué, qui a tout quitté, et l'Église forcément a la nécessité des sacrements, que si un prêtre défroqué, qui a fait pique-pendre, tombe sur un mourant, il peut lui donner l'absolution. Ce qu'il ne peut pas faire habituellement, mais il peut donner l'absolution, et cette absolution est valable.
Mais quand vous dites qu'on complète après, si par exemple un médecin, mais par exemple si le bébé, parce que moi j'ai des amis qui ont perdu un enfant, et dans la panique, il est mort à 2 jours, ils ont complètement oublié de le faire baptiser. Et en fait, il y a une infirmière qui est venue les voir, elle leur a dit, écoutez, en fait, j'ai baptisé votre enfant. Mmh. J'ai vu que vous étiez, enfin voilà, sinon elle se serait tue. Mais si, alors je ne sais pas si elle était baptisée elle-même, mais si elle n'était pas baptisée, l'enfant étant mort, son baptême, est, enfin son acte est... je veux dire...
On peut le notifier, hein. Moi, je l'ai fait. Une belle histoire, je n'ai pas trop le temps de la dire, mais une très belle histoire. Comme ça. Après, il faut le notifier.
Moi, je l'ai
notifié parce que une grand-mère m'a confié quelque chose qu'elle avait fait pour un petit-fils. Elle est morte. Et il s'avère que le petit-fils qui vit à Paris, j'avais aucune chance de le voir, est venu se marier dans ma paroisse. Est-ce qu'il a voulu aller là où. Et entre-temps, la grand-mère était morte. Et j'ai dit à ce petit-fils, il venait comme non baptisé. Mmh. Vous êtes baptisé. À vrai dire. Vous êtes baptisé. Mmh. Ah, il a très mal pris. Non, sa fiancée l'a très mal pris. Ah. Qui était la fiancée chrétienne, qui l'a amené au baptême, qui au mariage. Et lui, il était choqué, enfin perdu, très ému. Mais ça a été pour moi dans l'histoire. Voilà.
Mais ça, c'est un exemple de grâce actuelle là, que vous m'avez donné.
le fait que cet enfant qui ne se savait pas.
Oh, bah, je pense.
Ça, on est d'accord. Ah, pour bien comprendre ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Ah,
oui.
Ça sera
je pense, oui. Moi, ouais. C'est ce qu'on appelle les clins d'yeux. Quoi. Les clins d'yeux, c'est le grâce sexuel.
Dieu avec un D.
Et le baptême de désir.
Ben, c'est ça, c'est que l'Église croit que à partir du moment qu'on désire le baptême, si on n'a pas pu l'avoir, eh bien on est déjà entré dans la démarche du baptême, ou bien, ne serait-ce que par la mort, si on est mort avant, passage dans la mort, nous identifie au Christ, et bon, on s'en remet au Christ pour dire bon, on a plus, l'Église a abandonné il n'y a pas très longtemps la théologie des limbes,
oui.
Hein, il y a quelques années, et pour dire que tous les morts, les enfants nés sans baptême, mystérieusement, on fait partie du royaume de Dieu.
Ça rejoint aussi ce que vous venez de dire juste précédemment, en disant qu'il n'est pas lié par ses sacrements,
oui,
ça marche aussi dans ce sens-là.
Oui, comme le martyr, je pourrais dire, identifié avec un baptême. Il y a des martyrs qui ne sont pas baptisés, mais qui sont confessés le Christ dans le sang. Ah ouais, bon, l'Eucharistie. Donc là, on est vraiment au sommet, sur cette... Là, l'Eucharistie, il faut 2 heures, hein, enfin, il faut une vie, parce que chaque année, lisez un livre sur l'Eucharistie, quoi, pour renouveler, réapprofondir. Donc la source, le sommet, là, voilà, tout est par de là, tout le monde vient là, c'est vraiment la communion au Christ. Hein,
ceux qui sont inscrits sur les rites de la messe vont approfondir beaucoup le sens de l'Eucharistie.
Ah oui, ok. C'est vraiment le trésor de l'Église, un trésor que Christ va laisser à sa Pâque, un repas du Seigneur, la fraction du pain, il y a plein de noms, il y a telle richesse de sens dans l'Eucharistie, qu'on peut l'enfermer dans rien du tout. La fraction du pain, le mémorial, le saint sacrifice, la sainte liturgie, la communion, la sainte messe, etc. Donc les fruits de la communion, ça accroît notre union au Christ, ça nous sépare du péché. Les phases de péché véniel, il y a une mini-absolution de chaque messe. Hein. Ça fait l'unité du corps mystique. C'est en communion au corps du Christ que nous formons un seul corps, enfin, par les traces du baptême, mais plus on se rapproche, comme les rayons de la roue, plus on se rapproche du centre de l'essieu, plus on se rapproche les uns des autres. Ça nous engage envers les autres. Benoît XVI a une phrase extraordinaire où il dit que toute communion qui ne se traduit pas en service des plus pauvres est une communion tronquée, un truc comme ça. La finalité de la communion, c'est à Jésus, c'est la communion aux autres. Quoi, et c'est le service, c'est le don de soi. Le fruit de l'Eucharistie, c'est l'amour. Hein. C'est le don de l'amour et c'est pour le service. Hein. C'est aussi notre viatique pour le Saint-Voyage de la vie. Mange, sinon le chemin sera trop long. Rappelez-vous le passage avec Élie, c'est une très belle figure de l'Eucharistie. Il n'en peut plus, il va même se suicider, il en a marre de la vie, le pauvre Élie. Et puis donc, il s'endort en espérant mourir sur place. Et l'ange le secoue, et il réveille, il trouve une assiette avec, enfin, je ne sais pas s'il y avait l'assiette, mais il y avait du pain, de quoi manger. Et il ne veut pas, il rendort, d'écouter de la vie. L'ange le secoue à nouveau, il dit, mange, sinon la route sera trop longue pour toi. Et c'est là qu'il arrive à l'Horeb, il va rencontrer Dieu, non pas dans le fracas du tonnerre et du feu, mais dans la brise légère. Mais c'est le pain de la route, quoi, le viatique. Et donne la vie éternelle. Parce que vous avez remarqué qu'en Saint Jean, de ce chapitre qu'on lit en fraction, tous les 3 ans, je crois, de bout en bout, et pour les prédicateurs, c'est un gros exercice, parce que ça tourne sur lui-même, ce texte, mais il va toujours approfondissant, et il dit, ben, qui mange ma chair et boit mon sang, ah, la vie éternelle, c'est du présent. Donc c'est vraiment le germe de la vie éternelle qui est là, quoi, à travers l'Eucharistie. Ah, j'ai plus rien. Donc sans filet. Hein. Ça va ? Après, il reste les 2 sacrements. de la guérison, parce que nous portons ces
parce
trésors.
C'est
hein
parce que ça marche plus.
Non, c'est moi qui n'ai pas fini.
Ah bon, d'accord.
C'est moi qui n'ai pas fait le job.
Je finirai pour le document qu'on mettra en ligne.
Donc on porte ces trésors de Dieu dans des vases d'argile, physiquement parlant, spirituellement parlant, intérieurement. Et donc, il y a deux sacrements de la guérison. C'est le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Enfin, c'est son vrai nom. Hein. Le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, le vrai mot de la confession. Pénitence et réconciliation, les mots donnent le sens des choses. Hein. Hein, qui contient à la fois trois choses, la contrition, la confession, le fait de dire, de confesser, et la satisfaction. Donc, la contrition, on disait contrition parfaite. Il y a tout un débat avec les théologiens. Elle n'est jamais parfaite, la contrition. C'est pour ça... Alors, je n'ouvre pas la parenthèse maintenant, mais j'adore ce thème, les indulgences. Très polémique, mais qui est merveilleux. Le jour où j'ai découvert les indulgences, avant, j'étais comme tout le monde, c'était un drôle de truc, et mauvais souvenir dans l'histoire de l'Église, mais avec le texte de Jean-Paul II en 2000 pour Grand Jubilé, il a refait le manuel des indulgences, et donne l'explication. Quel cadeau, quoi. Quel cadeau. Donc, comme notre contrition n'est pas parfaite, ça empêche qu'il faut un minimum regretter ses péchés, quoi. Autrefois, au XVIe siècle, à l'époque de Saint-Philippe, là, notamment les jésuites, s'il n'y avait pas une contrition parfaite, ils refusaient l'absolution, quoi. On relisait les textes de Pape François là-dessus. Lui, il est beau être jésuite et très ouvert sur le sujet. Donc, contrition, confession, le fait de le dire, hein, de proclamer, de sortir. La confession, c'est même mot que les confesseurs de la foi. Hein, je confessais sa foi. Donc, c'est dire sa foi, c'est proclamer sa foi. Et dans la confession, il y a un double mouvement. C'est confesser l'amour de Dieu et confesser mon non-amour à moi. D'accord ? Je proclame, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Donc je dis dans ma confession, pour ça que vous pouvez très bien commencer vos confessions d'abord en remerciant, en rendant grâce. Seigneur, je te loue, je te rends grâce pour tel aspect. Parce que c'est vraiment le moment pour glorifier le Seigneur. Et puis, en même temps, moi, je ne correspond pas à ça, donc pardon Seigneur, pour tel et tel point. Donc il faut proclamer et il faut réparer. La satisfaction, c'est la réparation. Même si elle est très light, me dire, mais le curé, moi j'ai trucité un mec et le curé m'a demandé de dire quoi notre père, quoi. C'est ridicule. On n'est pas dans le film Mission où le gars essaye de. Parce que, bon, là mon exemple est un peu trop fort, mais il diminue un peu la force de l'exemple. Mais c'est sûr, il y a toujours un décalage et c'est fait exprès. Parce qu'il ne faut pas que vous pensiez non plus que c'est votre satisfaction, votre réparation qui vous obtient le pardon. C'est la réparation, c'est Jésus. C'est la mort et la résurrection de Jésus qui nous obtient le salut. Et nous, on vient l'accueillir. Et les indulgences viennent renforcer cet aspect des choses.
Est-ce que les prêtres ne
veulent
pas forcément
de pénitence? Oui. Normalement, il faut dire un petit truc quand même. Non. Des fois, j'oublie, moi aussi. Les paroissiens, en fait, ils n'ont pas donné la paix. Oui, c'est bien, il faut. L'onction des malades, donc ça c'est pour le corps, la psychologie. Donc il faut que ça s'adresse à tout homme qui est malade, on peut le recevoir plusieurs fois dans sa vie. C'est partout où la vie est en déficit, pour une durée, qui fait plonger la personne, quoi. Donc ce n'est pas forcément une maladie mortelle, ça peut être une dépression très forte. Alors, si vous déprimez 3 jours, ne demandez pas le sacrement des malades, hein. Ça fait partie de la vie d'être un peu déprimé de temps en temps, on a le droit. Hein. Mais il y a des gens qui ont qui plongent. Hein. On peut demander le sacrement des malades, même si ce n'est pas mortel de plonger comme ça, en premier temps, au moins. On demande une fois le sacrement pour une maladie. Après, une fois qu'on l'a reçu pour cette maladie, on ne le redemande pas, sauf si le temps a vraiment passé. Donc, ou c'est le grand âge, ou une maladie physique ou psychologique, voilà, qui atteint vraiment la vie en profondeur. Et qui demande normalement le sacrement. Il faut être réconcilié avec Dieu. Il y a un lien très fort. Il y a un nouveau bouquin qui vient de sortir, qu'on appelle le PSG, PSG le, pas le PSG, pas le PSG, c'est le PDG, un livre de prière, délivrance et guérison que les évêques de France ont proposé pour prier justement pour la délivrance, la protection, la délivrance et la guérison. Et c'est bien dans cet ordre-là, parce que la guérison physique est très liée à une protection et à une délivrance intérieure. C'est assez intéressant, je crois. Merci, Emmanuel. Non, mais il faut qu'il aille. Vas-y. Il a une autre réunion, le pauvre.
Est-ce que ça veut dire que toutes les prières de délivrance qui peuvent être dites ou faites rentrer dans une certaine dimension
sacramentale. Oui, c'est un sacramentaux. Alors après, l'Église a fait ça aussi parce que, notamment par le renouveau, il y a une tendance à être récupérer toutes ces choses-là par des milieux qui ne sont pas forcément très cadrés ecclésialement. Ouais, je sors dans mes propos. Et donc l'Église ne peut pas laisser faire n'importe quoi parce que c'est des terrains dangereux. On ne peut pas demander à dire à quelqu'un d'arrêter un traitement parce qu'on lui a fait une prière de guérison. Ça, ce n'est pas possible. Il y a toute une sagesse de l'Église. Et donc, l'Église a bien pressenti qu'il fallait recadrer un peu tout ça. D'où ce rituel. Enfin, ce n'est pas un rituel, c'est un livre de prière qui vient de sortir, qui nous donne des axes. Il n'est pas parfait, mais au moins, on a quelque chose, parce que c'est un domaine dont on a peur de parler. Alors, or, le domaine du démon, de la guérison, des protections dans l'Évangile, c'est à chaque page, excusez-moi. Donc, il ne faut pas le voir partout, mais il ne faut pas le voir nulle part. Donc, ça fait partie. Et il y a un lien très fort entre le corps et l'âme, on revient à ça aussi. Entre le psychosomatique, le psychospirituel, tout ça, ça ne fait qu'un. Quoi. La frontière entre le corps, l'esprit et l'âme, c'est extrêmement poreux. Donc, on a besoin vraiment de toucher les différents aspects de la personne. Et si nous, on ne le fait pas, bah, d'autres s'en chargent pour nous. Et de manière, parfois, qui sont, qui sont pas catholiques. Quoi. Donc, pour ça qu'il faut quand même, pour faire un sacramental, il faut que ça soit fait dans l'Église. Quoi. Ou des laïcs, ça peut être fait par des laïcs, il s'adresse à des laïcs ce bouquin. Donc, c'est parce qu'on est, donc ça peut être des laïcs, mais qui ont une mission. Moi j'ai un couple à la paroisse qui ont cette mission d'accompagner les gens. Ils le font exclusivement. C'est une première soirée communautaire aussi, en suivant le rituel. Il faut terminer, parce qu'il y a 2 minutes. Simplement, après il y a 2 sacrements. De sacrement pour qui n'est pas pour soi d'abord et pour les autres, c'est l'ordination et c'est le mariage. Donc c'est pour la construction du corps social, du corps ecclésial. Le mariage avec ses 3 buts qui sont le bien des époux, la génération et l'éducation des enfants. Donc c'est le mariage d'abord pour le bien des époux, pour qu'ils soient heureux, etc. Pour qu'ils se soutiennent toute la vie, pour la transmettre la vie et éduquer la vie. Notez que Jean-Paul II utilise une expression, il dit que le sacrement de mariage est le sacrement prototype et le sacrement primordial. C'est un peu extraordinaire, c'est le grand adage Jean-Paul II. Mais c'est le sacrement prototype et primordial parce qu'à vrai dire, il existe avant même les autres sacrements parce qu'il est là. Le mariage est vraiment dans son propre. On dirait que tous les autres aussi, d'une certaine manière. Mais on n'a pas besoin de sacrement de pénitence. À l'origine, au commencement, était la grâce. Ce qui est promis, ce n'est pas le péché. C'est pour ça qu'il faut toujours revenir avant le péché pour nous comprendre. Notre identité, elle est là, quoi, d'avant le péché. Et donc, le couple. Il est là dans sa grâce initiale. Il n'a pas été inventé pour rattraper les affaires, le couple. Il est le projet initial. Donc c'est vraiment primordial et fondamental. Quoi. Et il est l'image de tout ce que Dieu veut faire à travers les 16 sacrements, parce que c'est une histoire de communion. C'est l'histoire de l'alliance. Il s'agit de recréer l'alliance par les 16 sacrements. Et l'alliance par excellence, c'est quoi? C'est le mariage. Et les mariés, dans le don d'eux-mêmes, deviennent des signes visibles de l'amour invisible de Dieu pour l'humanité. C'est pour ça que les noces de Cana, c'est extraordinaire, puisque c'est on ouvre l'évangile de Jean avec ces noces de Cana, un mariage, où Jésus va poser un acte très très humain, parce qu'il va donner du pinard, c'est quand même dingue. son premier grand miracle, où il manifeste sa gloire, il donne du pinard. Et tout ça, ça a un sens magnifique, puisque il y a différentes interprétations du texte. Hein. Mais il me semble que les mariés sont vraiment le signe. On ne connaît pas le marié dans l'affaire. Pour moi, c'est Dieu. Il y a combien de Jésus, je ne sais pas comment on place les choses. On va dire Dieu simplement, et l'humanité, ce couple. Hein, il représente en tant que couple l'alliance entre Dieu et l'humanité, cette alliance initiale, l'alliance ancienne, l'alliance nouvelle et éternelle. Dans ce mariage des noces de Cana. Et Jésus va être au service, et les prêtres autour, avec Marie, et les femmes, etc., ils vont être au service de cette alliance, en faisant le boulot, les serviteurs qui sont là, parfois vont remplir le truc, voilà. Et il va donner le sang, le vin nouveau, encore meilleur, le vin de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés, pour qu'on rentre dans cette grande histoire d'amour, quoi. Vous comprenez pourquoi on peut dire que c'est le sacrement qui révèle tous les autres, parce qu'il signifie ce que Dieu essaye de réaliser à travers tous les autres sacrements. Bon, l'Eucharistie et le mariage, bon, c'est pour ça qu'on célèbre, normalement, on célèbre l'Eucharistie avec le mariage. Donc c'est triste de ne pas célébrer l'Eucharistie avec le mariage. Oh non, une petite messe, une petite bénédiction. Bon. Le prêtre, j'ai déjà assez parlé de lui. Mais ça mériterait un développement, mais bon, il est là. Donc je vous remercie de votre patience. Je reconnais que c'est long, hein, pardon. J'ai peut-être ouvert des portes ouvertes. En français, des portes ouvertes.
C'est bien,
c'est
la base. Ouais, merci.
Vous pouvez tout ça en catéchisme de l'Église catholique.
Par exemple, le dernier sacrement,